Rich people dreaming. Les gens riches qui... En train de rêver. Ok, j'ai pas bien écouté les paroles, ça va l'air sympa. 8h48. Sarah allume. Vieweuse, soutien, pilier de cette chaîne, modératrice, vient d'écrire dans le chat en lettres capitales, je sens tes groseilles. Je cherche. Ok, il y a quelques jours, on a écouté du Francky Vincent sur cette chaîne. Voilà, il y avait une histoire de... Ok. Ok, je vais me reprendre un café par contre. J'espère que vous allez bien. J'ai mal partout ce matin. Merci Anne Twitch. Bonjour Sam d'un viewer de l'ombre. Merci pour cette revue de presse de grande qualité. Je ne sais pas si elle est de grande qualité, mais en tout cas, elle est là tous les jours. J'ai mal partout. J'ai mal sur le côté, sur le bras, sur l'épaule, sur la jambe, au niveau du genou, un petit peu là aussi. C'est très douloureux. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Non, ce n'est pas la vieillerie, El Giganto. Merci encore, Loupa, pour ton soutien, pour ton sub. Non, pas trop musclé, non. Je ne vois plus mes pieds, j'ai un ventre, c'est incroyable. Non, c'est pas les muscles, non. Non, non, j'ai pas dormi sur le canapé. C'est pas le poids du succès, ce n'est pas la ménopause. Pour mon cas, ce serait plutôt l'andropause. Je suis tombé, Calistera, oui. Je suis tombé du lit. Désolé. 8h50, c'est quand même assez rare que nous lancions un live. Celui qui a écrit prothèse de hanche, là, ça va chier. C'est assez rare que nous lancions un live avant 9h. Et tomber du lit, la douleur, tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai un rendez-vous à 12h30 avec un petit déplacement. Il faut que je parte à 11h50 par là. Donc voilà, donc pour que vous ayez votre ration, votre quota, votre dose quotidienne d'actualité, voilà, j'ai lancé un peu plus tôt. Alors que ça accueille à 12h30 ici sur Duvalo pour tester notamment le nouveau pistolet, là, le Bandit. Voilà. Et à 8h50, quelques heures plus tard, la presse a été lue, les joues ont été rasées, le corps a été douché. Voilà, on est là. Je peux te faire un bisou magique quand tu veux. Merci Oxyde, c'est gentil. J'ai cru qu'il n'avait pas appliqué la technique de la marche du pingouin. Voulez-vous que je vous refasse la marche du pingouin? Sinon, vous l'avez en replay sur tous les réseaux sociaux. Mais d'où te vient toute cette énergie? Je ne sais pas, Fluffy. Je ne sais pas. Un live matinal, au moins, je peux passer bonjour juste avant d'aller en partiel. Salut MG. Ah oui, pris de court, oui. Et oui, on est tombé ce matin, on est tombé du lit. On est des falas. Des psychopathes. Manchot ou pingouin, peu importe. L'important, c'est l'efficacité. Bon, j'ai l'impression que le chauffage est allumé dans ce studio alors qu'il y a zéro chauffage. Je brûle d'un feu intérieur. Le feu de la passion pour l'actualité. Ça a tellement soufflé cette nuit, j'ai cru que ma maison allait s'envoler. Mais parlons-en du vin. Une dinguerie. Hier soir, dans le chat, certains, Alexandra notamment... nous alertait sur le vent, l'alerte au vent, mais à Paris cette nuit, une folie. Le vent s'immisçait un peu dans les fenêtres, une espèce de sifflement, de grondement, l'impression que j'avais un TGV qui passait à côté de l'appartement toute la nuit. Une folie, je me suis réveillé. La pub pour Valorant en pré-roll, c'est vrai. Franche-Comté, Captain Oui, ça souffle aussi. Rafale mesure qu'il y a 213 km/h sur la Normandie. Mais c'est quoi? C'est une compétition? C'est fou ça. 8h52, il y a des travaux qui commencent dans un appart à côté. C'est légal ça? C'est pas un peu tôt ça? C'est pas 9h non? T'as l'impression qu'il est littéralement chez moi quoi. Alors que c'est un immeuble. C'est l'immeuble de l'autre côté de la cour. Ouais, bah, il a un gros marteau. Hein. C'est 8h? Pensez, c'est 8h? Ah, c'est peut-être 8h. Non mais c'est pas possible, la fenêtre est ouverte ou quoi? Attends. Ah, culotte courte me dit que c'est 9h. Non mais la fenêtre est fermée quoi. J'ai l'impression que le mec est là. Vous l'entendez ou pas? En Belgique, c'est 7 heures. Ouais, mais enfin, en Belgique, hein, on vous connaît, vous êtes un peu des foufous, hein. C'est OK si c'est une entreprise, je crois. Ouais, il faut laisser les gens bosser aussi, ouais, je comprends. On n'entend pas à nous? Ouais. Bon, ça va alors. L'important, c'est que vous n'entrez. Semaine 8h-19h? Ok. Ça dépend des pays, ça dépend peut-être aussi des communes. Je suis trop dense, le vent ne m'ébranle pas, me dit Yumsy Clumsy. Cool en vrai. Cool en vrai. Bon, petit cool. Petit Valo cool hier soir, c'était sympa. Game de classement, on en a fait 3 sur 5. Une solo queue. Gagner une solo queue perdue et une belle 5-stack avec les amis, avec Sugar et avec Draco, qu'on a un 3-9. Un 3-9, on était mené 3-9. 3-9. Le 3-9 curse, les amis. On a gagné 14-12, je crois, après prolongation. OMPSG, tout ça, la gnognotte à côté. Incroyable. Et à 3-9, Sugar l'a dit hier soir. 3-9 curse. 16-14, 16-14. Les gars, ils menaient 9-3. On les a mis 16-14. On n'a rien lâché. Alors ça, c'était beau. Voilà. Ça, c'était beau. Sur la frontière. Sur la côte frontière. Pardon. Sur la côte frontière Picarde. Dis-moi, dis-moi. Normandie, à 4h du matin, je sangle mon abri de jardin pour pas qu'il s'envole. Tu sangles ton abri de jardin? J'ai cru que tu sanglais ton mari pour qu'il s'envole pas. Mais c'est ton abri. Remarque, si ton mari ou ton épouse ou quelques membres de sa famille, de ta famille que ce soit, menace de s'envoler, tu le mets du coup dans l'abri de jardin. Parce que si tu sangles l'abri de jardin, du coup, tu peux mettre la famille dedans. Sangler son mari, c'est pour autre chose. Ça y est, j'ai l'image. Ok, je l'ai, j'ai l'image, super, 8h55, merci quoi. Salut Broubrou, merci pour le 30e mois d'abonnement, c'est adorable. Merci, mais là pour le 22e mois, merci Soyland pour le 48e mois, merci encore Loupa, j'ai raté. Merci Loupa, j'ai loupé bien des subs. Non, c'était bien hier soir, c'était sympa. Et puis donc revue de presse ce matin, ce soir... ce soir stream ou pas, on verra. Hein, mais pas trop tôt, je pense. Je vais passer un peu de temps en famille. Salut Hugo Fast. Demain après-midi, revue de presse des bonnes nouvelles. Bon, sachant que les seules bonnes nouvelles que j'ai trouvées cette semaine datent de lundi dans la presse. On va se régaler. J'ai deux bonnes nouvelles à partager avec vous. Ça veut dire que je vais devoir me taper les journaux demain matin, ce que je n'avais pas prévu de faire pour vous en trouver, parce que cette semaine avec Trump, le Groenland, le Venezuela. Aujourd'hui, j'ai du Mercosur, j'ai Liceo, la police anti-immigration aux États-Unis, la mort de la mère de famille, la dinguerie là. Pouh, Ah si, j'ai une bonne nouvelle. Ah si, j'ai une bonne nouvelle. Salut Étienne, j'ai une bonne nouvelle. Je profite qu'on soit au début pour comment dire, en faire profiter les leftos. Voilà. Et les fidèles que vous êtes. Voilà. Vendredi prochain, je vérifie la date. Vendredi prochain, donc vendredi en 8. C'est une espèce de blague avec la commune en ce moment. Vendredi, précisément 16 janvier, à 14h, je fais un stream IRL en direct du Grand Palais à Paris, magnifique, pour les 200 ans du Figaro. Ok? Donc, on a mis les petits plats dans les grands. On a 8 invités, 8 journalistes du Figaro. On va se promener dans le Grand Palais, dans l'exposition des 200 ans du Figaro, en IRL. Voilà, une équipe de prod, on a 6 ou 7 personnes entre Joe à la réalisation, à la production, deux cadreurs, un ingé son, et puis deux personnes pour nous accompagner pour un. Hein. Donc on met les petits plats dans les grands, on va parler du Figaro, mais on va parler aussi de journalisme, des médias aujourd'hui, c'est comment se réinventer quand t'es un média traditionnel, comment toucher les publics, etc. Comment éventuellement aller sur les nouvelles plateformes. Et alors c'est une OP, hein. C'est une OP avec le Figaro. Et hop, et je vous mets le petit hashtag collaboration commerciale, et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce que je n'avais pas prévu, c'est que, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, à cette occasion des 200 ans du Figaro, ils ont une promo d'abonnement. Mais une promo d'abonnement de psychopathe. Le problème pour lire les journaux, alors moi je les lis tous, c'est mon plaisir. Moi je trouve que lire tout le temps le même journal, c'est dommage. C'est s'enfermer dans une bulle informationnelle, une bulle de confirmation. Hein, vous aimez bien un journal, vous le lisez tous les jours, et puis finalement, il y a un moment où vous allez toujours avoir des articles un petit peu dans votre sens, quoi. Donc moi, c'est pour ça que je lis tous les journaux. Et par exemple, ce matin, sur une histoire aussi sérieuse que le Mercosur est importante, je dirais Libération et le Figaro, par exemple, pour voir s'il y a des regards différents. L'Humanité aussi, sur le même sujet. Voilà. Et le problème, c'est le coût. Hein, parce qu'un journal, il faut payer les journalistes. Voilà, et une information de qualité, ça se paie. Hein, toujours. Tu parles de Mediapart, Bandit. Exactement. Mediapart, c'est un modèle économique très intéressant. Pas de pub, uniquement des abonnements. Sans les abonnés, Mediapart marche pas, quoi. Donc, le Figaro, pour ses 200 ans, fait une promo, point d'exclamation Figaro dans le chat. C'est une dinguerie, parce que ça nous donne... Tenez, vous l'avez là. Ça vous donne ça. Pour le coup, économiquement, c'est une dinguerie. Un journal, c'est... je sais plus combien ça coûte à l'unité. Maintenant, ça coûte... prenons le Parisien... Prenons le Parisien ce matin, si vous l'achetez dans le kiosque, en kiosque à la gare, 4,10€. Ok, d'accord. 4,10€. Le Figaro, par exemple, en kiosque aujourd'hui, c'est combien? C'est 3,90€. C'est un coût. C'est un coût. Là, le Fig vous propose un abonnement de 2€ par mois pour le Figaro tous les jours pendant 200 semaines. Je ne suis pas super fort en calcul mental, mais 200 semaines, 52 semaines par... Par an, ça nous fait quasiment 4 ans. 2€ par mois. 2€ par mois pour, en gros, le prix d'un demi-journal, quoi. Par mois. Voilà. Et offre résiliable à tout moment. Ils disent 47 mois. Là, je sais pas, j'ai 200 semaines, là, tu vois. Il y a une petite astérix. 47 mois, voilà. 47, t'as raison, Ragnam. Et résiliable à tout moment. C'est que en digital, c'est le quotidien. Attends, je suis allé voir, attends. Voilà, c'est la version PDF que moi j'utilise. Tu vois, je vous montre. Moi, en fait, j'achète pas les journaux format papier. Hein, je vais pas en kiosque le matin. D'abord parce qu'il me les faut très très tôt. Je les ai le soir. Je les ai le soir à partir de 22h, 23h. Voilà. Et donc, je suis abonné au Monde, au Parisien, à Libération, Figaro, La Croix, Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe. Voilà. Donc, c'est la même chose, ça. C'est le PDF que vous allez pouvoir télécharger. Alors, le matin, si vous êtes du matin. Mais en général, ces journaux, à partir de 22h, 23h, vous les avez en PDF, quoi. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends le Parisien ce matin, dans ce format-là, quoi. C'est le journal papier, mais en format PDF, quoi. Voilà. Et vous avez accès au site... du journal pour trouver tous les articles si vous préférez faire une recherche par exemple. Camille me dit 22h pour le Figaro, ça dépend, ça bouge un petit peu, hein. ça dépend de l'actualité aussi, mais t'as raison, c'est plutôt proche de 22h. Voilà. Donc certains me posent les questions. Ligne éditoriale du Figaro, si vous êtes habitué de cette matinée Étienne que je présente depuis 5 ans, on est sur un journal que moi je qualifie conservateur, avec une ligne éditoriale plutôt de droite, en tout cas pour ses éditos. Après, qualifier la rédaction d'une rédaction de droite, c'est plus compliqué que ça. Au sein d'une rédaction, parfois, il y a des lignes de fracture. Parfois, je lis dans des journaux, dans le même journal, le même jour, deux articles qui sont deux analyses parfois opposées d'une même actualité. Ça arrive souvent pour le Figaro, par exemple, avec des éditos, pour le coup, en une, qui sont vraiment des éditos qu'on pourrait qualifier de droite et de conservateur. Et parfois, dans le journal, des articles sur le même sujet qui vont nous emmener avec une autre petite musique. Bref, ça, c'est la ligne éditoriale. Donc, le Figaro... Vous validez, vous validez pas. Comme Libération, vous validez, vous validez pas. Hier, on avait un viewer très actif dans le chat avec qui on a eu quelques mots parce qu'il a une fixette sur Libération, par exemple. Monsieur Brio, pour ne pas le citer. Voilà. Son historique a montré qu'effectivement, il était un peu vindicatif sur la façon dont il exprimait ses opinions et notamment auprès des autres viewers. Donc, je l'ai un peu rappelé à l'ordre. Je lui ai envoyé un petit message ce matin. Et lui, par exemple, c'est quelqu'un qui fait une fixette sur Libé, quoi. Donc tout ce qui est dans Libé, c'est de la merde. Et tout ce qui est excessif, moi, m'embête un petit peu. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de lire Le Figaro et Libé. Il y a des gens qui ne... Par exemple, quand je dis « Allez, on va lire l'Humanité !» Alors, c'est des cris dans le chat. « Quoi ? Ce journal communiste ?» etc. Moi, je lis tout, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir différentes sensibilités, différentes lignes éditoriales, différents regards sur l'actualité. Et tous ces médias... Tous ces journaux, avec des lignes éditoriales très différentes, des sensibilités différentes, sont des journaux de qualité. En tout cas, c'est mon credo, c'est ma conviction. Donc le Figaro, c'est cette ligne éditoriale-là, mais c'est un journal que moi je lis, Le journal communiste en question. Bah oui, l'Humanité, c'est un journal qui... Ce n'est pas un journal que je qualifie de communiste, c'est un journal qui se qualifie de communiste, c'est un journal qui se revendique communiste. Hein. C'est pas moi qui décide de dire que l'Humanité est communiste. Uvesia, je ne sais pas si c'était le sens de ta question. C'est un journal qui longtemps a été un partenaire de chemin, de route du Parti communiste français, alors qu'a pris son indépendance par rapport au Parti communiste, mais qui est un journal communiste. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Qu'est-ce que je disais, pardon. Et donc, Le Figaro, alors qui est l'éditorial qu'on vient d'évoquer, c'est un journal qui a des pages internationales, notamment des pages culture. Non, bien sûr, je profite pour taper sur le PCF, rien de plus. Ah oui, c'est vrai que c'était très, très impressionnant comme argument contre le PCF. Merci beaucoup. On dirait Bardella. Récemment, j'ai vu un échange entre deux responsables politiques. Il y avait Bardella et un jeune homme qui disait avoir le même âge que Bardella, d'ailleurs, et qui était manifestement un élu communiste. Et donc, ce jeune homme, dans le cadre d'un débat, lui reprochait des choses, enfin des points de friction sur des sujets. Et la réponse de Bardella, c'était « Ah ! Mais vous êtes communiste !» En 2025, un truc comme ça. Waouh ! Effectivement, le niveau de la confrontation était assez élevé, quoi. Donc, à un moment, il faut un petit peu, je sais pas, prendre de la hauteur quand on veut censurer les débats politiques. Mais vous êtes communiste pour disqualifier la personne communiste en France, dans ce que représente le PCF aujourd'hui, c'est un petit peu court quand même. Voilà. Donc, pardon pour la parenthèse. Donc, Le Figaro, moi, c'est un journal que j'aime lire. Alors, est-ce que je me retrouve dans l'éditorial du Figaro? C'est une autre question. Mais Le Figaro, pour la qualité de ses pages internationales, culture, éco, c'est un journal que j'aime bien. Voilà. Comme j'aime l'UMA, comme j'aime l'IB, comme j'aime l'Opinion, comme j'aime l'équipe, même si je suis nul en culture sportive, même si j'aime les échos, j'adore la Croix, le Parisien, etc. Voilà. Donc, ça vous donne ça. Et en vrai, bah, si vous êtes un peu accro à l'actu, voilà, si vous êtes un peu accro à l'actu, et que la Croix, j'adore, et que la question des sous est un sujet, bah, je trouve que 2 euros tous les mois pour avoir un journal tous les jours, sauf le dimanche, Le Figaro Paris du lundi au samedi, le soir à partir de 22-23 heures ou le matin en téléchargement sur votre tablette, et l'accès au site, bah putain, en vrai, c'est fou. Voilà. Pendant quasiment 4 ans. Voilà. Point d'exclamation, Figaro, vous avez le lien. Voilà, je vous en reparlerai. Mais en vrai, je trouve ça cool, quoi. Sugar me dit, tous mes abonnements journaux, c'est des promos que j'ai chopés ici. Merci, Sam. Notamment le pour le Parisien, alors aussi. Donc voilà, je vous en parlerai. Mais surtout, venez nombreux vendredi prochain à 14h. On sera en direct du Grand Palais. Parce que cet échange avec ces 8 journalistes du Figaro, on se promènera dans le Grand Palais, parce qu'il y a une exposition sur les 200 ans du journal. Ouest France aussi. C'est vrai que Ouest France, c'est un journal que j'aime bien aussi. Et bien, ce sera l'occasion de parler finalement aussi de l'information, de journalisme. Et je sais que c'est des sujets qui vous intéressent vachement. Donc, si vous vous posez des questions sur comment être journaliste aujourd'hui, ce qu'est être journaliste aujourd'hui, vous avez, c'est vendredi prochain, Enzo, donc dans une semaine à 14h. À 14h, voilà. Et on a on va avoir des invités incroyables, quoi. Voilà. Donc ça va être top. Voilà pour la petite intro. Courrier international, très bon, Bad Guy. Très bon Courrier international. Hein, c'est un très bon magazine. Pour ceux qui l'ignorent, mais vous le savez tous, qui permet de lire traduit en français des articles de la presse internationale. Et là aussi, on multiplie les regards. C'est vachement intéressant. Chamban, franchement, ça marche, même si je ne suis pas forcément d'accord avec le patron, les articles sont toujours sourcés. Oui, c'est presque de qualité. Salut Emma. Merci Emirante pour le 47e mois. Merci Graceware pour l'abonnement offert à Sarah Lume, qui nous parlait des groseilles tout à l'heure. Mais là, Bourbou 06, je vous ai remercié, je ne sais plus. Bon, et vous, ça va, vous? La vie, le vent, le froid, les virus? En plein partiel, tout roule. Bonjour mon loup, salut Antoine. Perso, je m'y connais pas trop, mais j'aime bien lire Le Monde. Très bon journal. ADRH. J'ai utilisé l'excuse des vents violents pour finir la semaine entêtée. Joli, c'est propre. Courte nuit à cause du vent. Ça souffle, hein? Ça faisait du bruit, ça faisait du boucan. Super, la grippe est d'un bon coup cette année. Ouais, juste Scorpio. Le froid bof, il n'y a même plus de neige à Grenoble. Bah, Paris, il fait très doux, hein. Mon bébé m'a fait passer une nuit d'enfer. Ouais, Koraki. Bon, ça. Eh oui, c'est quelques mois, c'est-à-dire les nuits compliquées. Ils ont faim, ils ont mal au ventre. Tu sais, les systèmes digestifs qui sont un peu immatures au début, les pauvres. Donc ça fait des nuits compliquées. Ouais. Tu sais tout ça. Dis-moi, Samuel, dans le domaine de la télé, est-ce que tu sais si c'est possible de postuler à des offres d'emploi pour bosser dans l'informatique? Si oui, je veux bien des infos, si possible, bien évidemment. Salut Bondy6, voilà, pseudo d'actualité puisque c'est le nouveau gun sur Valo. Bondy, alors tu sais, moi, mes liens avec la télévision sont très faibles aujourd'hui puisque je ne travaille quasiment plus en télévision. Hein, j'ai la chance de présenter encore Question pour un champion qui est diffusé le week-end, mais ça représente 2 semaines d'enregistrement dans l'année. Ça. Donc, autant dire que, bah, en fait, mes liens avec le monde de la télé sont assez réduits aujourd'hui, quoi. Donc, j'ai plus de lien réel avec une chaîne ou avec une rédaction. Donc là, dommage, sinon je t'aurais demandé de m'envoyer un CV, puis je l'aurais peut-être transmis à des services informatiques des médias où je travaille. Mais aujourd'hui, mon média, c'est Twitch. Merci Bandit, en tout cas, pour. Désolé, désolé. Non, mais je l'aurais fait en vrai. Ouais. Un petit transféré, quoi. Est-ce que tu aimes bien Julien Courbet, son émission sur RTL? J'ai un a priori positif sur Julien Courbet, mais je le connais pas bien. Je connais pas bien son émission. Mais à chaque fois que je vois les extraits de lui, je sais pas, il a l'air de faire du bon boulot, non? Pas bien dormi, pont de Normandie fermé, donc t'étais, il y a des trucs qui sauvent. Salut Alexandra. Je disais que tu nous avais parlé du vent, Alexandra, hier soir. Hein. Merci. C'est toi qui devrais présenter les 12 coups de midi. Ah, c'est quoi les 12 coups de midi déjà? C'est TF1, mais non, on sait comment il s'appelle. Il est excellent, personne ne peut le remplacer. Comment il s'appelle? Léo Mattei, là, qui est acteur aussi. Reichmann, Jean-Luc Reichmann, irremplaçable. Attends, attends. En vrai, bon, c'est pas un ami, c'est pas une connaissance particulière, mais immense animateur. Hein. Attends, Reichmann, on est tous très très différents dans nos styles d'animation. Putain, Reichmann, ça dépote, hein, les 12 coups de midi. Hein. Non, franchement, il est la personne qui va remplacer Reichmann éventuellement un jour, quoi. Vas-y, fais, c'est la question co. Ah oui, la question co, la question co, la question coquine, un truc comme ça, là. Non, 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 non. Non, non, c'est un. Non, non. Non, non, c'est un. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un. Il est. Le gars fait ça depuis un moment, tu vois. Et il réussit à mettre de l'énergie, de la passion dans son truc et tout, alors que ça fait un moment qu'il présente le jeu, tu vois. Non, 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 non. Non, respect. Après, c'est un style, quoi. Tu vois, t'aimes pas. Mais bon, il y a du taf, il y a de l'engagement, il y a de la passion. Il est très populaire auprès de son public. Non, non, non. Ça taffe, hein. Ça taffe, hein. Merci. Merci, si. Merci, si, te lâche. Merci, Amérante. Non, non, non. Alors, je voudrais pas passer derrière Reichmann. Impossible de remplacer le monsieur, là. Les amours à son époque, c'était incroyable. Oui. Pas trop fan à titre perso. Oui, MMG, on n'aime pas le style. Mais là, je vous parle du côté pro, tu vois. Tu vois, le côté. Le mec, il est dans son truc, quoi. Moi, je ne pourrais pas le remplacer. Alors, en même temps, c'est pas prévu. Pas forcément. C'est pas un objectif non plus de vue, quoi. Je veux dire, de refaire beaucoup de télé, quoi. Bon, on va peut-être y aller parce que je vous quitte à 11h50 ce matin. Merci Sugar. Ce serait comme remplacer la gaffe au Big Deal, pas facile. Oui, enfin le Big Deal, pour le coup, c'est terminé. Il y a eu un petit retour du Big Deal à un moment là, puis c'est reparti, je crois. Ok. Bon, je pensais commencer cette matinée sans me faire un café, mais là, c'est marrant, hein. Ça retombe déjà. Il faut que j'en reprenne un. Angelino, t'as réagi aux déclarations de Le Pers à ton égard? Non, 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 non. Non, non, moi j'ai beaucoup de. Moi je pense que voilà, on est dans un monde qui est un peu violent. Voilà, il faut pas. À un moment, il faut avoir du respect pour nos aînés. Hein, il faut avoir du respect pour nos aînés. Bon, Julien, ça fait 10 ans qu'il a rien fait. Il s'ennuie. Bon, en vrai, ça peut se comprendre. Voilà. Moi aussi, quand j'aurai son âge, je m'ennuierai et puis de temps en temps, je dirai des conneries. Bon. Je vais chercher un café, j'arrive. Un café cool. Drop the mic. Ah bah non, 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 je le garde celui-là. Non, non, non. Par contre, l'autre, qu'est-ce qu'il prend là quand... J'arrête pas de le balancer. J'ai mon Sennheiser, là, celui qui me sert pour jouer notamment à Valo, là. Putain, à chaque fois que je perds, je l'envoie valdinguer. Je ne sais pas comment il fait pour tenir. C'est de la qualité, hein. Sennheiser HMD27, là. Le truc, je l'envoie sur le bureau quand même tous les jours, quoi. C'est quoi ce coussin sous tes fesses? Ah bah c'est l'âge, ça, c'est la vieillerie, on aime le confort. On est bien quoi. Ah, ça y est, c'est bon, il est prêt. Ça va pouvoir lancer 30 minutes d'intro tout pile. En plus, je peux vraiment pas rater le rendez-vous là, 11h50, je m'en vais parce que c'est un rendez-vous avec Hélène en plus. Enfin, c'est pas un rendez-vous, j'ai pas rendez-vous avec ma femme. On se donne pas des rendez-vous quand même. On se voit un peu quand même, mais c'est un rendez-vous où on va ensemble. Donc, ton avis sur la nouvelle interface du menu de Valo? Bah, au début, un peu surpris, paf, mais au final, c'est pas mal. C'est un date. Un date. Ah, mais le coussin, ça, attendez, c'est un coussin de gamer, ça. Ça, c'est Edge of Empire, les gars. MDR le coussin, bah non, pas MDR, coussin de goat, hein. Voilà. Et ça c'était un événement des pizzas et du frag. C'était sur je sais plus quel FPS. Non, 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 non. Ouais, Wololo, voilà, c'est ça. À soirée Apex Legends. Putain, Sugar, t'as une mémoire, toi. Donc, pas MDR. La pauvre obligée de prendre des rendez-vous pour te voir. Bah ouais, c'est ça d'être avec un mari très. Très désiré, très demandé. Une icône, disons-le. Hein. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour l'actu, là? Je vous fais un petit sommaire. Ouais. Je vais redevenir sérieux parce que, waouh, dans l'actu, il y a des dingueries. Hein. Des dingueries. Vous êtes prêts? Eh ben on y va. Il est où mon sommaire? Ok. Bonjour à tous. Bienvenue les amis. Bon, je fais comme si on démarrait maintenant. Vous savez, on a fait 30 minutes d'intro. Mais c'est pour nos amis qui nous écoutent en podcast, tous les jours en podcast audio, sur toutes les plateformes de podcast, les Deezer, les Spotify, les Apple Podcasts, etc. Puisque en podcast, la revue de presse, elle commence là. C'est-à-dire, elle commence pour le sommaire. Bienvenue à tous. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. Ça fait 5 ans que tous les matins, du lundi au vendredi, et même le samedi après-midi, désormais, avec une revue de presse des bonnes nouvelles, on lit les journaux, on essaie de s'informer un petit peu, de se tenir au courant de ce qui se passe. Et d'en parler de la façon la plus chill possible, parce que tant qu'à faire, même si on n'est pas d'accord, autant ne pas se mettre dessus. Alors, on va commencer par le sommaire, c'est-à-dire que en quelques minutes, je vais essayer de vous donner l'essentiel de l'actu pour que ceux qui ne peuvent pas rester avec moi toute la matinée Étienne, toute la revue de presse pendant 2-3 heures, aient quand même un petit peu l'actu. On va commencer par un truc, ouais, 5 ans déjà, ça fait 5 ans que je suis là, qui est dramatique. Moi, j'ai choisi de commencer par ça, parce que Enfin, dramatique, le mot est faible. Le Parisien, il consacre une page. On lira un article dans Libération aussi qui consacre deux pages ce matin. C'est la mort d'une femme. Aux États-Unis, une mère de famille, précise le Parisien, je crois, une dame qui avait 37 ans, qui s'appelle Renée Nicole Good, qui, avait trois enfants et qui a été tuée par la police. Cette fameuse police de l'immigration, hein, l'ICE, cette police de l'immigration dont les moyens ont été extrêmement renforcés, boostés par le président Trump, hein, pour lutter contre l'immigration illégale. Voilà, une police qui a été montrée du doigt à plusieurs reprises ces dernières semaines, ces derniers mois, pour beaucoup de dérives et de bavures. Voilà. Et là, il y a une dame qui manifestait justement contre cette police de l'immigration à Minneapolis, voilà, et qui a été tuée, hein, de plusieurs balles dans sa voiture. Voilà. Et il y a des propos de Trump, dont on va parler ce matin, qui sont extrêmement choquants, puisque plutôt que de saluer la mémoire de cette femme, hein, sans casier judiciaire, une maman qui n'a rien fait d'illégal, eh bien Trump, au contraire, l'a accusé d'avoir voulu attenter à la vie des policiers, voilà, ce que semblent infirmer les images, parce qu'il y a plein de vidéos, hein, et n'a pas eu de mots de compassion pour cette femme et sa famille. Renée Nicole Good, nous, on va saluer sa mémoire ce matin, manifestait contre la police de l'immigration à Minneapolis, écrit le Parisien. L'administration Trump a crié à la légitime défense. À la légitime défense. On ira voir les images ensemble. Voilà. Les images montrent le contraire, écrit le Parisien. Deux pages dans Libé. Mort de Renée Nicole Good à Minneapolis. La brutalité autoritaire, récolte la colère. Capturé en vidéo, le meurtre d'une mère de famille abattue mercredi à bout portant par un agent de la très controversée police migratoire a fait scandale aux États-Unis. Un drame qui souligne la polarisation extrême du pays entre propagande, militarisation et effacement de l'état de droit. Donc on lira toutes ces infos et puis je pense qu'on va y revenir aussi dans les prochains jours. Voilà. Donc voilà, c'est le premier sujet qu'on traitera ce matin. On a beaucoup parlé depuis dimanche dernier sur cette chaîne de l'opération militaire américaine au Venezuela, des vues de Trump maintenant sur le Groenland, peut-être même sur la Colombie. On a rappelé aussi ce qu'il avait déclaré à propos du Canada. Enfin, on a beaucoup parlé des visions expansionnistes, finalement, pour les qualifier comme ça, du président américain. Libération pose la question ce matin, ça une, vous le voyez, qui peut sauver le Groenland face à Trump et à ses menaces de conquérir ou acheter le territoire sous tutelle danoise? Risse, tu tapes point d'exclamation Figaro dans le chat. L'Europe peine à sortir de sa passivité. Ça fait plusieurs jours qu'on lit beaucoup d'articles qui disent finalement que l'Europe est impuissante parce que divisée. Voilà. Et que, par exemple, si Trump décidait une intervention militaire au Groenland, eh bien, l'Europe ne bougerait pas le petit doigt. Voilà. Et c'est un peu ce que dit Libé aussi ce matin dans cette analyse, dans ce papier que vous avez sous vos yeux, l'Union européenne, tigre de papier, parce que l'Union européenne est une puissance, n'en déplaise à certains, voilà. Mais tigre de papier, face à l'impérialisme américain, l'Europe n'étant pas un État capable de faire la guerre, mais une confédération sans leadership, elle serait incapable de résister à la volonté des États-Unis de faire main basse sur une partie de son territoire. Voilà, donc on lira ce dossier. Alors depuis dimanche, c'est vrai qu'on consacre une part importante, sinon pas dire essentielle, de cette revue de presse à toutes ces histoires autour de Trump. On fera un petit peu moins ce matin, mais on va continuer à le faire dans les prochains jours. Alors le Mercosur. Alors le Mercosur, au début, je ne voulais pas vous en parler ce matin. Pourtant, il y a des articles dans tous les journaux. Hein, c'est même la une du Figaro. Regardez. Pourtant, je ne voulais pas. J'ai pas mis la une du Figaro. Je me trompe, c'est pas la une du Figaro. Si, marquons dans le piège du Mercosur. Bah, j'aurais pu vous le mettre. Voilà. Je vous ai mis l'article, mais je ne vous ai pas mis la une. Donc, les articles. Et pourtant, j'ai failli pas vous en mettre parce que je trouve le dossier est quand même très technique, très complexe. Voilà. Il suscite beaucoup de débats. Et puis, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut prendre énormément le temps pour pas dire de bêtises. Et puis, à un moment, je me suis dit, Samuel, C'est pas parce que toi, tu n'as pas envie de parler du Mercosur qu'il faut pas parler du Mercosur. Parce que c'est un sujet important. C'est un sujet qui provoque la colère de beaucoup d'agriculteurs en France. C'est un sujet qui intéresse peut-être la communauté. Et donc, il faut en parler. Donc, fais-toi violence. Donc, je vous ai mis les articles qui me semblaient les plus pertinents. Deux regards, donc, Libération et le Figaro. Même l'Humanité, vous le voyez d'ailleurs dans le petit sommaire, là, sur le Mercosur. Pourquoi? Parce que le Mercosur, l'accord de libre-échange entre donc, plusieurs pays d'Amérique latine et l'Europe, qui se discute depuis des années, hein, depuis 20 ans, il est en passe d'être adopté malgré l'opposition de la France. Il y a quand même eu des manifs. Dans Paris hier à partir. Oui, je sais, j'étais à un moment, j'étais coincé dans une manif hier. Ouais. Donc on lira tout ça. Et notamment avec l'opposition de l'Humanité à ce truc. Mercosur, la capitulation de l'Europe, l'Humanité qui est vent debout hein, contre cet accord de libre-échange. Hop, hop, tiens, j'ai toujours parlé, la colère agricole remonte jusque sur les Champs-Élysées. Étrange affaire, étrange histoire. Une libération d'otages français. Il y a un otage français qui s'appelle Laurent Vinatier, je pense qu'on prononce comme ça, qui était emprisonné en Russie depuis juin 2024. Voilà. Qui a été libéré, décision de Poutine. On évite de passer à autre chose. Non mais c'est le sommaire là, bandit. C'est le sommaire, là. C'est pas la revue de presse là. Hein? Tu parles d'autre chose? Ah oui, bah, tu n'es pas un habitué, Bandit. Tu es nouveau. C'est le sommaire, ça. C'est express. C'est comme le café. Expresso. Ah non, 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 tu vois, je suis bavard, moi. Ah non, le Mercosur, je vais t'en parler pendant 1 heure tout à l'heure. Et tout à l'heure, tu me diras, oh là là, c'est long, c'est long. N'en peux plus. Ah non, c'est le sommaire, là. Tout va bien. Et donc, libération d'un Français, Laurent Vinatier, qui est un chercheur. Hein. Il est arrivé à Paris hier, en échange de la libération et du retour à Moscou du basketteur Danil Kassatsine, qui lui était réclamé par les États-Unis d'ailleurs. Voilà. Alors, le chercheur, il était accusé d'espionnage par la Russie. Bah, une histoire un peu étrange que nous raconte le Parisien ce matin. Merci, Laurel himself. Et on terminera avec. Alors, dans le monde, il y a. C'est vrai que je vous en parle pas beaucoup, mais quasiment tous les jours. Il y a des pages, souvent une ou plusieurs, carnets hommage aux disparus, quoi. Les morts. Les morts célèbres, les gens qu'on. Alors, c'est souvent des artistes. Non, c'est dans plein de domaines. Pas forcément des gens, d'ailleurs, très connus du grand public, mais des gens dont le monde estime qu'ils ont marqué leur époque pour une raison ou une autre, quoi. Donc là, il y a un hommage à Béla Tarr, cinéaste hongrois, que bah, j'avoue, je ne connais pas, mais je ne suis pas non plus un spécialiste de cinéma. Et là, il y a aussi un article et un hommage à David Rosen, que vous connaissez peut-être, qui est le cofondateur de Sega. Voilà. Sega. Alors Sega, on est d'accord que c'est une boîte japonaise aujourd'hui. Hein, est-ce que je dis une bêtise? Sega, est-ce que c'est japonais pour moi, non, Sega? Ou pas? Oui. Et ça l'a toujours été, me dit Phantom Requiem. Oui. Sauf qu'en fait, Sega a été fondée par les Américains. Alors moi j'apprends ça. Alors moi j'apprends ça. Hein? David Rosen, c'est le cofondateur avec un autre Américain de Sega. Et pourtant c'est une boîte japonaise. C'est vachement intéressant, non? Ouais. Alors voilà, donc et le petit article nous rappelle toute cette histoire. Et comment ça a commencé? Il y a longtemps, hein? Entre 1949 et 1952. Histoire de cabine photo d'abord. L'histoire est géniale. Voilà. C'est pas ce qu'indique la page Wikipédia. Alors, attends. Wikipédia. L'histoire de Sega débute au Japon pendant la guerre de Corée en 1951, lorsque deux Américains fondent la société Lemaire and Seaward, blablabla. Bla 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 bla. Bah si. Voilà. Entreprise japonaise fondée par les Américains. Tout va bien. Alors je triche, Parce que moi-même, j'ai fact-checké cet article et je suis allé voir Wikipédia ce matin pour, et d'autres sources pour vérifier cette info. Et donc, je savais très bien que la page Wikipédia disait exactement la même chose. Voilà. Bon, voilà pour le sommaire, les amis. Déplacer un peu le sommaire, il était mal placé. Et Raknam, habitué de cette chaîne, fidèle, dit my bad. Comment ça? Ton message précédent, c'est ce n'est pas ce que dit la page Wikipédia. Et ton deuxième message, c'est my bad. C'est-à-dire que vous donnez dans ce chat des infos comme ça. Au feeling. Au feeling. Hein? Genre, toi, après tout ce que tu as fait, hein, après ce soutien constant que tu témoignes à cette chaîne, tu viens comme ça, dans ce chat, hein, où on a pour passion justement un peu la rigueur de l'information, la vérification des infos, et tu me dis, c'est pas ce que dit Wikipédia, et en fait, tu ne sais pas ce que dit Wikipédia. Cœur sur toi, mon ami. Ça, c'est la fin de semaine, ça. Non, mais c'est mignon. Mais oui, toujours important d'essayer de vérifier les infos, les sources. Ça, en fait, j'insiste là-dessus, en fait, et je rigole avec ça. J'aime beaucoup la personne qui est à l'origine de ce message. Mais c'est ça, en fait, toujours. Et moi, le premier, hein, je dis énormément de bêtises et voilà, toujours surveiller, vérifier l'info, d'où ça vient, etc. Voilà pour le sommaire. Est-ce que vous êtes prêts pour la suite, bande de beaux gosses? C'est quoi tous ces subs? Merci, Super Ben. Merci, Fabricadon, pour le raid. Mais Fabrica, tu stream? Fabricadon, fidèle de la chaîne également. Attends, il me manque des infos. Fabrica. Fabrica, il faudrait que je réponde à ton mail, putain. Tu raid? Tu stream? Regardez. Fabricadon, le Fabricadon qu'on voit souvent dans le chat ici. Viens regarder et faire souffrir un joueur moyen. C'est moi, ça? Mais au grand cœur. Ici, tout ce que la chaîne génère est reversé à l'association. C'est vrai. Alors, Fabricadon, il a développé notamment une appli, un site dont il m'a parlé par mail. C'est très intéressant. Donc, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder et de vous en parler et de lui répondre, mais c'est très intéressant. Vous voyez comme c'est beau. Tout ce que la chaîne génère est reversé à des associations. Mais pas seulement, il y a un site aussi. Voilà. De mini-jeux, avec des mini-jeux. Et chaque follow sub me fait marcher plus vite sur le tapis. T'as un tapis? Voilà. Trois actions solidaires par jour gratuites pour soutenir les assos. Voilà. N'hésitez pas à aller follow cette chaîne. Attendez, je vous la mets en épinglé, ok? Je vous la mets dans le chat. Bim. Bim. Et bim. Ah, vous aviez fait un shout-out. Je n'avais pas vu. Voilà, n'hésitez pas à follow parce que ça mérite des follows, ça. Merci, Fabrica. Pour l'instant, elle génère rien avec Twitch. Je suis pas encore finançable. Non, mais c'est le début. C'est le début. C'est le début. Allez, je lis encore quelques messages. Pourquoi j'avais mis le... Je vous lis encore quelques messages et puis on commence cette revue de presse. Super Kevin, moi aussi je suis raid le matin, mais pas sur Twitch. Excusez-moi. Ok, d'accord. Je vois que certains commencent à débattre de l'ICE, de la police de l'immigration aux États-Unis. Ça tombe bien, on va en parler dans un instant. Casser du cul. Non, pardon. Casser des culs. C'est pas pareil. Pardon, pardon, j'ai fourché sur le pseudo. Ce n'est pas casser du cul, c'est casser de cul. Casser des culs. C'est pire. En fait, c'est pire. Je pensais que c'était. Non. Ah, mais j'ai pas épinglé le bon message, moi. J'ai pas épinglé la chaîne là. Oh là là, j'ai pas épinglé le bon message. Attendez, je vous la remets. Ah ouais, en fait, je pensais que c'est casser du cul, je me dis non. Et en fait, c'est pire, c'est casser des culs. Attendez, je vous l'épingle. Attendez, je vous épingle la bonne chaîne. La chaîne de notre ami Fabricadon. Voilà. Et donc, qu'est-ce que disait casser des culs? Parce que la question était pertinente. Coucou Samuel, juste par curiosité, Es-tu journaliste professionnel ou fais-tu cette émission juste par passion de l'actualité info? Juste par curiosité, KCDQ, pourquoi ce pseudo? Pour répondre à ta question, je suis journaliste professionnel, c'est mon métier. Je l'ai été de façon traditionnelle, classique, pendant 30 ans dans différents médias, Radio France Internationale, RFI, France Info, France Inter, France 3, France 4, Europe 1, Canal Plus, iTélé. Et puis à un moment, j'ai découvert Twitch et je me suis dit, bah tiens, ce métier, je vais le faire ailleurs. Voilà. Alors, pas faire ailleurs la casse, les carcasses de voitures et on revend tout ça à la tonne. Pas se faire ailleurs là. Non, faire ailleurs, aller sur ailleurs, sur les plateformes où vont le public maintenant, on se rend compte quand même que le public se migre quand même de ces médias traditionnels vers YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Valka 73. Sam, commence les infos, s'il te plaît, tu divagues. Je t'emmerde, en fait. Ah, Valka 73. Voilà. Ça, c'est l'illustration de pourquoi on est sur Twitch. Parce que c'est cette liberté de ton. Ça, je ne peux pas dire ça, hein, sur France Info. Voilà. Et c'est pour ça que je suis sur Twitch. C'est parce que dès que j'ai une bêtise à dire, je la dis. Voilà. On est sur quelque chose de plus naturel. Hein. De plus libre aussi. Hein. Le je t'emmerde, volontairement provocateur, c'est une démarche intellectuelle, hein, bien sûr. C'est une démarche de pédagogie. Hein, pour vous montrer ce qui est attachant ici, c'est cette liberté. Voilà. Exactement quoi. Voilà. Bon, on va y aller effectivement, parce que sur le fond, tu as raison. Je dis vague. Et je vous ai vu dans le chat, tous ceux qui ont écrit vague, parce que j'ai dit vague. Voilà, enfin, j'ai dit vague. Ça diverge beaucoup. Voilà, super. On connaît la suite. Et c'est du propre. Allez, on va y aller, on va redevenir sérieux, parce que la première information qu'on va traiter, elle est dramatique. On y va. Premier sujet qu'on va évoquer dans Le Parisien, dans Libération. Je lis Le Parisien avec vous. Une mère de famille tuée par la police. L'Amérique sous le choc. Merci Tangerine Nightmare. Renée Nicole Good, c'était le nom de cette femme de 37 ans, qui était tuée par la police américaine, précisément par la police de l'immigration, qu'on appelle l'ICE, manifestait contre la police de l'immigration à Minneapolis. Voilà, tu manifestes aux États-Unis et tu te prends 3 balles dans la tête. L'administration Trump a crié à la légitime défense, les images montrent le contraire, dit le Parisien. Lisons l'article, correspondance de Vincent Piala et d'Anissa Amadi, aux États-Unis. Les Américains se sont réveillés hier matin en découvrant la photo du visage radieux de Renée Nicole Good. Cette Américaine de 37 ans est morte mercredi soir, à Minneapolis, aux États-Unis, tuée à bout portant par un agent de l'immigration de l'ICE. L'ICE, c'est l'Immigration and Customs Enforcement. C'est ce qu'on appelle la police de l'immigration, la police migratoire aux États-Unis. Elle manifestait en compagnie d'autres activistes contre l'intervention de ces forces de l'ordre dans un quartier résidentiel de la plus grande ville du Minnesota, parce que les méthodes, les pratiques de cette police de l'immigration, elles sont dénoncées par beaucoup d'Américains. Il y a eu des manifestations. Hein, cette police de l'immigration dont les moyens ont été énormément boostés par le président Trump pour lutter contre l'immigration illégale. Et ce sont des méthodes très, très, très critiquées. Souvent, les visages des policiers sont masqués, cagoulés. Ils n'ont pas de badge d'identification. Hein. Et ils interviennent aussi à la sortie des écoles, à la sortie des tribunaux, pour essayer d'attraper le maximum de gens dans des conditions qui sont extrêmement problématiques. Et donc, il y a beaucoup de manifestations aux États-Unis régulièrement contre cette police de l'ICE. C'était le cadre ici, c'était cette maman, mère de 3 enfants, de 37 ans, était en train de participer à une manifestation pour dénoncer les méthodes de l'ICE. Innovatodef, elle ne manifestait même pas. Une vidéo un peu plus longue montre qu'elle était bloquée avec un agent dans sa voiture et qu'elle attendait simplement qu'une voiture passe. Elle faisait partie d'une manifestation. Je suis catégorique là-dessus. Ce sont les informations dont nous disposons. Voilà. Après, on peut manifester d'une façon extrêmement paisible. Ça ne change rien à l'histoire. Mais il faut pas se tromper sur les infos, sinon après on raconte n'importe quoi. Le choc a été brutal. Pour l'Amérique, renforcé par le visionnage de la vidéo de la mort de cette jeune femme. On la voit au volant de sa voiture, fenêtre ouverte, essayer de quitter les lieux où viennent d'arriver les agents de l'ICE qui lui demandent de sortir du véhicule. Mais elle n'obéit pas. L'un d'eux s'approche de la fenêtre et lui tire une première fois dans la tête, à bout portant, puis une deuxième, et enfin une troisième alors que le véhicule est en train de s'éloigner. Voilà. Vous savez quoi, on ira voir les images. Voilà. La voiture finira sa course un peu plus loin contre des véhicules en stationnement. Donald Trump, le président américain, confronté par des journalistes du New York Times à qui il donnait une interview, a résumé l'émoi. C'est une scène terrible, je déteste voir cela. Cela ne l'a pas empêché, lui, et plusieurs hauts membres de son administration, de tenter de renverser le récit. Selon Christine Noem, la secrétaire à la sécurité intérieure, c'est l'équivalent de notre ministre de l'Intérieur, la conductrice se serait rendue coupable, ça c'est la version de l'administration américaine, la conductrice se serait rendue coupable d'un acte de terrorisme. Et on ira voir les images tout à l'heure. On ira voir les images. Parce que les images, on les a, parce qu'il y avait d'autres manifestants sur place. Il y avait beaucoup de téléphones. Voilà. Et on ira voir ces images. Voilà. Et l'administration américaine parle d'un acte de terrorisme. En essayant de s'en prendre aux forces de l'ordre via son véhicule, disent-ils. L'enquête sera uniquement gérée par le FBI qui a interdit les polices locales de s'approcher de la zone des coups de feu. Les opposants ont dénoncé une volonté d'étouffer l'affaire. L'incident meurtrier qui a eu lieu hier dans le Minnesota est le résultat d'un vaste mouvement sinistre de gauche qui s'est répandu dans tout le pays où nos courageux hommes et femmes des forces de l'ordre sont la cible d'attaques organisées. Ça, c'est la déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche, hein, Caroline Leavitt. Une femme est morte. Une femme de 37 ans est morte. Hein, sans casier. Sans avoir menacé la vie de quiconque. Et la porte-parole de la Maison-Blanche parle d'un vaste mouvement sinistre de gauche et salue les courageux hommes et femmes des forces de l'ordre cibles d'attaques organisées. Le Parisien, d'ailleurs, souligne que ces condamnations de la Maison-Blanche interviennent 5 ans après l'assaut du Capitole, vous vous souvenez ? Où le camp conservateur n'avait pas montré la même promptitude à l'époque à condamner les agressions bien plus évidentes contre la police. Le vice-président américain, Jed Evans, qui espère bien être le prochain président des États-Unis, s'est situé sur la même ligne. Ce mec, il parle du policier qui a tiré, faisait son boulot. Ah, d'accord. Quand il s'est approché de la voiture, elle a essayé de le heurter. Tragédie pour interrogation, absolument, dit-il. Mais une tragédie dont les seuls responsables sont 7 femmes. Tragédie dont les seuls responsables sont 7 femmes et tous les radicaux de gauche. Jed Evans. Une réécriture de la réalité, écrit le Parisien, qui n'est pas un journal anti-Trumpiste, anti-États-Unis par essence. Hein. Une réécriture de la réalité qui choque aux États-Unis, puisque beaucoup d'Américains ont réagi. Les responsables démocrates, tout en appelant la population au calme, ont critiqué cette vision du drame qui polarise encore un peu plus une Amérique qui l'est déjà comme jamais. À chaque fois, explique un spécialiste de la rhétorique présidentielle américaine qui s'appelle Jérôme Viala-Godefroy, à chaque fois c'est le même récit. Ce sont des terroristes qui empêchent les agents fédéraux de faire leur travail et les mettent en danger. Ils n'avaient qu'à accepter d'obtempérer. Hein ? Le récit en place depuis longtemps est ressorti comme l'automatisme. Admettre une erreur ne fait pas partie du logiciel de Trump. Ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez, abonde le journaliste spécialiste des États-Unis Dominique Simonet. Quand on ne peut plus se mettre d'accord sur les faits, il n'y a plus de démocratie possible. Hein, Trump nie la réalité depuis toujours. Le coup a en tout cas été réussi, puisque toute la journée d'hier, les médias américains ont tourné en boucle sur l'analyse de la vidéo, hein, l'orientation des roues, hein, de la voiture de la victime, l'emplacement du policier. Pendant 24 heures, la question était de savoir s'il y avait eu bavure ou légitime défense, hein, alors que les images semblaient de prime abord pourtant claires. Hors des rangs politiques, la condamnation a d'ailleurs été unanime. Brian O'Hara, le chef de la police d'une ville qui avait été secouée dans le passé par la mort de George Floyd, a lui aussi critiqué l'action des agents de l'ICE. Quand quelqu'un n'est pas armé, dans un véhicule, et essaie de s'éloigner des forces de l'ordre, la consigne est de tout faire son possible pour minimiser les risques. A-t-il déclaré, tirer avec une arme de poing sur une personne au volant n'est pas particulièrement efficace pour arrêter le véhicule. L'auteur des coups de feu a d'ailleurs continué à tirer alors que le véhicule était en train de s'éloigner, contredisant la thèse de tir pour protéger sa vie. Cet officier expérimenté qui vit à Minneapolis, collabore depuis 10 ans avec l'ICE, voilà, avait déjà été impliqué en juin dernier dans une intervention qui avait mal tourné dans cette même ville. Un immigré guatémaltèque au volant de sa voiture avait tenté de s'enfuir lors d'un contrôle, le traînant sur plusieurs dizaines de mètres, avait-il ce souvenir en tête mercredi soir. Il s'agit de la 9e fois depuis le mois de septembre que des agents de l'ICE ouvrent le feu. Dans un autre de ces cas, une personne a été tuée, un immigré mexicain à Chicago. Cette fois-ci, la victime est une Américaine, parlons de la victime, mère de 3 enfants, qui n'avait jamais eu de problème avec la justice. Les photos de son habitacle taché de son sang je reprends l'article, montre des peluches entassées dans la boîte à gants. D'habitude, la femme blanche est victimisée face aux immigrés, pointe Jérôme Vialagaudefroy aux États-Unis. Là, il a fallu imposer un autre récit très vite. Il s'agit d'abord d'une activiste de gauche qui a empêché la police de faire son travail avant d'être une femme blanche, mère de travail. Donc l'accusation, alors, elle est tantôt qu'elle a mis en danger avec sa voiture la vie d'un policier, puis tantôt qu'elle a empêché la police de faire son travail puisque son véhicule gênait la circulation des véhicules de l'ICE, voilà. Donc quand vous gênez le travail de la police aux États-Unis, eh bien, vous prenez des balles dans la tête. Pour le gouvernement, le message est « on peut vous tuer puisque vous n'avez pas obéi ». Attendez, je lis un petit peu le chat. Je prends le temps de vous lire après. L'administration Trump ne cache pas et ne cache plus son penchant autoritaire depuis son retour au pouvoir. Alors que les vidéos de la mort de René Goode inondaient les réseaux sociaux sans filtre ni avertissement, le compte X de l'agence Reuters a fait précéder un de ses tweets de la mention « Warning, strong language ». Attention, langage offensant. Pourquoi ? Parce qu'on y voyait le maire de la ville, Minneapolis, Jacob Frey, affirmer « ICE, barrez-vous de Minneapolis ». Barrez-vous de Minneapolis, voilà. Warning, langage offensant. Des mots qui ont, chez certains aux États-Unis, presque plus choqué que les vidéos de la mort d'une femme de 37 ans. Je vous lis un petit peu et puis on enchaîne avec le même article de Libération. Libération qui propose sur son site... Pardon, je suis désolé. J'ai un chat dans la gorge. Libération.fr dans son onglet Check News, qui est, parce que Libération a créé un... Il y a des années déjà un service au sein de la rédaction de Libération de vérification des informations, un check qui s'appelle Check News. Et sur le site de Libération.fr, vous avez plusieurs vidéos de la scène. Voilà, pour vous pouvez la regarder, notamment une qui est la plus claire qu'on ira voir. Je vous lis un petit peu et on passe sur l'article de Libé. Voilà, warning, langage offensant, mais on met des balles dans la tête, ça va pas. Voilà, voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Je suis en train de vous lire, hein, pardon pour ce silence. Un petit message pour un viewer qui s'appelle Jack Error, qui a déjà été averti par les modérateurs. Entre tes appels sur cette chaîne à lire Valeurs Actuelles et tes messages expliquant noir sur blanc à l'instant que la victime est responsable de ce qui lui arrive, hein, puisque elle a fait exprès par son comportement de pousser à la bavure le policier. Apaise-toi. Et comme t'y as invité un des modérateurs, cesse de revenir sous des nouveaux comptes après avoir déjà été banni pour propos problématiques sur Twitch, s'il te plaît. À bon entendeur. Bien sûr, Jack. Bien sûr, Jack. Sur une vidéo, Slash a raison, on voit que les policiers empêchent un médecin civil de venir en aide à la conductrice. C'est vrai aussi. Lisons l'article de Libération. Libération qui sur son site nous propose plusieurs vidéos justement hein, et notamment constater à quel point effectivement le comportement de cette conductrice était tellement dangereux et menaçant qu'elle s'est pris plusieurs balles. Libération. Mort de René Nicole Good à Minneapolis, la brutalité autoritaire récolte la colère. Capturé en vidéo, le meurtre d'une mère de famille. Abattu mercredi à bout portant par un agent de la très controversée police migratoire, a fait scandale aux États-Unis. Un drame qui souligne la polarisation extrême du pays entre propagande, militarisation et effacement de l'état de droit. Est-ce que tu as le droit de montrer ça sur Twitch? Demande Valka. Tu parles de la vidéo? Je vais le prendre, ce droit. Voilà. Si Twitch décide de censurer cette chaîne pour avoir montré ce qui ressemble à un meurtre d'un policier américain contre une femme qui n'a rien fait, eh bien je prends ce risque. Voilà. Alors ce serait de la responsabilité de Twitch après d'assumer une décision. Mais là, on est sur de l'information. Capturé en vidéo, le meurtre d'une mère de famille abattue mercredi à bout portant par un agent de la très controversée police migratoire a fait scandale aux États-Unis. Un drame qui souligne la polarisation extrême du pays entre propagande, militarisation et effacement de l'état de droit. Article de Frédéric Autran. Quand l'État abat l'un de ses citoyens en pleine rue, sous les regards et les téléphones des passants, impossible de parler d'un simple fait divers. C'est un fait de société. Et pour certains, un moment charnière est le signe peut-être d'un réveil politique tronc l'OTAN différé. Mercredi, au matin, à Minneapolis, une opération de la très controversée police migratoire ICE s'est soldée par la mort de René Nicole Good, 37 ans, mère de famille, tué à bout portant, dans sa voiture, par un agent fédéral. Au lendemain du drame, Minneapolis s'est réveillé dans une atmosphère lourde de colère, d'incompréhension, de tristesse, tandis que le gouverneur appelait à la retenue et que les autorités locales, par mesure de précaution, annulaient les cours à l'école. Dans l'ensemble de la ville, des centaines de manifestants se sont rassemblés dès les premières heures du jour devant un bâtiment fédéral servant de quartier général aux opérations anti-migrants. Scandant shame, honte, no more ICE, on ne veut plus de l'ICE ou go home nazi, rentrez chez vous les nazis, les protestataires ont été repoussés par les forces de l'ordre aspergées de spray au poivre et de gaz lacrymogène. Au moins 2 personnes ont été interpellées. Nous devrions être horrifiés, nous devrions être attristés que notre gouvernement mène une guerre contre nos citoyens. Nous devrions sortir et dire non. Que pouvons-nous faire d'autre ? A témoigné l'une des manifestantes auprès de l'association AP. D'autres manifs étaient prévus jeudi dans la ville, mais aussi à New York, Détroit, Seattle, Washington, Los Angeles. La scène du drame, filmée sous plusieurs angles, rappelle d'autres images traumatiques de l'histoire américaine récente. Eric Garner, Breonna Taylor, Tyre Nichols, George Floyd, mort étouffé en 2020 sous le genou d'un policier à quelques centaines de mètres du lieu où René Nicole Good a été tué mercredi. À cette différence près, la victime cette fois est tombée lors d'une opération quasi militaire ordonnée par le président Donald Trump. Tu as raison, Axe. Je vais le faire. Menée sur le sol national par des hommes masqués aux méthodes brutales. Diffusées en boucle sur les réseaux sociaux et les télévisions, les images interprétées de façon radicalement opposée selon le bord politique laissent toutefois peu de doute sur un point central. Jamais cette scène dans une rue enneigée de Minneapolis n'aurait dû se conclure par la mort d'une femme. Quelle que soit l'interprétation des images selon un camp ou l'autre aux États-Unis, il y a quelque chose sur lequel on devrait tous se mettre d'accord. C'est cette phrase. Jamais cette scène n'aurait dû se conclure par la mort d'une femme. Les images. On y voit le SUV de René Nicole Good, d'abord en travers de la chaussée, qui tente d'ouvrir sa portière. Pardon, excusez-moi, j'ai passé une phrase. On va être précis. On y voit le SUV de René Nicole Good, d'abord en travers de la chaussée, approché par un agent, vous allez voir les images, hurlant, hein, qui tente d'ouvrir sa portière, puis la conductrice manœuvrait lentement, ça vous le verrez aussi, pour tenter de s'extraire. 3 coups de feu éclatent, tirés à bout portant par un agent placé devant le véhicule, qui percute ensuite une autre véhicule garé quelques mètres plus loin. Sans attendre la moindre enquête, l'administration américaine a immédiatement soutenu l'auteur des tirs, du président au vice-président, en passant par la secrétaire à la sécurité intérieure, qui a invoqué un acte de légitime défense. Face à un acte de terrorisme intérieur, la mort de cette femme est qualifiée d'acte de terrorisme intérieur. Présentée comme une émeutière, vous verrez les images, présentées comme une émeutière par le pouvoir américain. Entravant l'opération de l'ICE, René Nicole Good est accusé par le département de la sécurité intérieure d'avoir transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer. Vous verrez les images. C'est pas ce que vous verrez. Cette version est vigoureusement contestée par les témoins et les autorités locales. Le maire démocrate de la ville, Jacob Frey, n'a pas mâché ses mots. Après avoir vu la vidéo moi-même, c'est le maire de la ville qui le dit. Je peux dire à tout le monde sans détour, ce sont des conneries. A-t-il lancé, appelant la police migratoire à foutre le camp de Minneapolis. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz. Très bonne remarque, il y a Zeus Elias qui dit « Par contre, ceux qui ont attaqué le Capitole sont des héros, des patriotes. » Quand les supporters de Trump ont attaqué le Capitole et que les policiers en charge de la sécurité ont demandé aux manifestants de reculer. D'ailleurs, il y a eu une femme qui a été tuée, d'ailleurs, par un tir de policier dans un couloir du Capitole. Est-ce que les policiers auraient dû abattre chacun des manifestants parce qu'ils n'obéissaient pas aux consignes qui leur étaient données? Moi, j'applique juste ce que j'entends de l'administration américaine. On est d'accord, c'est la même chose, hein. Mais enfin. Mais enfin. C'est ça qu'ils disent. D'ailleurs, il y a une femme qui a trouvé la mort au Capitole, qui a été tuée par un policier. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a dénoncé de son côté la machine de propagande de la Maison-Blanche et promet une enquête complète et juste. Ce gouffre entre les faits observables et le discours fédéral reflète la polarisation extrême des États-Unis. L'historienne Heather Cox Richardson, qui est spécialiste de la guerre de sécession, y voit une nouvelle épreuve imposée par le régime Trump qui ne cesse de repousser les limites de son pouvoir. Le fait que le DHS et Trump aient publié de faux récits de la fusillade, alors même que quatre vidéos révèlent que ces récits sont des mensonges, montrent qu'ils n'essaient plus de justifier leurs actions. Au contraire, poursuit-elle, donc là, qui parle, c'est l'historienne, il exige des Américains qu'ils abandonnent la réalité au profit de tout ce que dit l'administration. Si cela fonctionne, ce serait une démonstration de pouvoir totalitaire, la capacité de contrôler la façon dont les gens en pensent. Le drame de Minneapolis découle d'une croisade migratoire hors de contrôle. Le drame de Minneapolis découle d'une croisade migratoire anti-migrants hors de contrôle. À tel point que pareille tragédie était redoutée déjà depuis des mois. En moins d'un an, l'ICE a plus que doublé ses effectifs, donc ce sont les moyens donnés par Trump à cette police de l'immigration, hein, passant de 10 000 à 22 000 agents, renforcés par des milliers de fonctionnaires fédéraux réquisitionnés, normes de recrutement assouplies. Normes de recrutement assouplies, limite d'âge supprimée, copieuses primes à la signature. Selon les experts, cette croissance, hein, des effectifs de l'ICE s'est faite au détriment de la formation et de la discipline, le tout aggravé par une culture du commandement défaillante, comme en témoignent les multiples vidéos de raids chaotiques de l'ICE. L'objectif n'est plus d'expulser les criminels dangereux, comme affirmé par le pouvoir américain, mais d'atteindre un quota, 3 000 arrestations par jour, fixé par Stephen Miller, proche conseiller de Trump. Inévitablement, les opérations se déplacent donc vers les quartiers résidentiels, près des écoles, hein, sous les yeux des familles, le plus souvent dans les villes démocrates, à la sortie des tribunaux, hein, quand vous avez des immigrés en situation irrégulière qui essaient de régulariser leur situation, ils sont dans des procédures pour obtenir des papiers, eh bien, les policiers de l'ICE attendent à la sortie du tribunal pour les arrêter. Donc, et en les dissuadant d'ailleurs de s'engager dans des procédures de régularisation. En réponse, les communautés locales s'organisent, observent, documentent, tentent parfois de ralentir les convois. C'est peut-être ce qui s'est passé là. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit Libération. C'est peut-être ce que faisait pacifiquement Renée Nicole Good. Elle y a laissé sa vie. L'administration Trump et Kristi Noem traitent les citoyens américains comme des pertes acceptables dans leur campagne d'expulsion massive et illégale, et ils autorisent, voire encouragent, les agents non formés et sous-qualifiés à agir de manière imprudente et cruelle dans les communautés américaines. Cela doit cesser, a martelé la députée démocrate Veronica Escobar. Pour le politiste Mike Madrid, Minneapolis s'inscrit dans la même logique que le récent coup de force américain à Caracas. Le parallèle avec le Venezuela n'est pas fortuit, dit-il, il est fondamental. La semaine dernière, cette administration a envoyé un millier de soldats et 40 navires de guerre pour intimider Caracas. Le message, c'est la force fait loi. Au Venezuela, ils projettent leurs forces à l'étranger, à Minneapolis, chez eux. La logique est la même, tout comme le mépris pour la dignité humaine. Deux théâtres pour une même doctrine, entre affaissement de l'état de droit, usage abusif de la violence légitime. Cette banalisation progressive de la violence d'État se traduit par une érosion méthodique de la frontière entre opérations militaires externes et maintien de l'ordre intérieur. Vous vous rappelez que Trump a envoyé la garde républicaine dans plusieurs villes au prétexte de y rétablir la sécurité, ou, comme par hasard, des villes démocrates, symbole caractéristique d'une dérive vers un État policier. Depuis l'assassinat en septembre de l'influenceur d'extrême droite Charlie Kirk, l'administration Trump a entrepris de mettre en place l'arsenal juridique et sécuritaire d'une chasse aux sorcières politiques sous couvert de lutte contre le terrorisme intérieur, cette même qualification infamante apposée après sa mort à René Nicole Good, puisque rappelons encore une fois, je suis désolé d'insister, mais que cette femme, cette victime, est désignée comme une terroriste aujourd'hui par l'administration Trump. Depuis des mois déjà, la Maison Blanche traite les villes américaines, en particulier celles dirigées par les démocrates, comme des territoires hostiles, y déployant des milliers d'agents fédéraux et parfois la garde nationale contre la vie des États concernés. Cette stratégie alimente une spirale de tension dans laquelle chaque camp perçoit l'autre comme une menace, avec un risque accru de violence et de bavure. Nous avertissons depuis des semaines que les opérations dangereuses et sensationnalistes de l'administration Trump constituent une menace pour notre sécurité publique, que quelqu'un allait finir par être blessé. Pour Mike Madrid, la mort de René Nicole Good marque un moment charnière. Notre liberté est en danger. Pas au sens figuré, mais concrètement. La liberté d'être témoin, de documenter des faits, de se protéger les uns les autres, de se déplacer dans nos villes sans que des agents fédéraux armés nous obligent à obtempérer sous la menace de mort. Hein ? De dire la vérité. Écrit-il, avant d'exhorter toutes les personnes de bonne volonté à rejoindre la résistance face à la militarisation des villes américaines, c'est maintenant que nous devons décider quel genre de pays nous devons devenir. Voilà. Et en bas à droite, vous avez ça. Check News, ce que montrent les images minute par minute. Après la mort de René Nicole Good, Donald Trump et son administration ont invoqué la légitime défense. Trois vidéos permettent de reconstituer les faits. Voilà. Donc nous, on va mettre un petit avertissement, un petit warning dans la notification de stream. On va mettre... classification de contenu, je vais mettre représentation violente et choquante, simulation et représentation de violence réaliste de gore, de blessure extrême ou de mort. Qu'on puisse pas me reprocher de ne pas avoir averti, quoi. Merci à, d'ailleurs aux viewers de m'avoir dit ça. Je pense que c'est pas mal, en fait. Voilà. Donc on va aller sur libération.fr. Donc c'est Check News, en fait, ça s'appelle. Donc c'est le service de libération chargé de la vérification de l'information, Check News. Service Check News. Voilà, donc là, il y a plusieurs choses. Oui, il y a plein de sujets. Alors, où est le dernier ? Est-ce que c'est peut-être international ? Est-ce que c'est là ? Parce que moi, je l'ai trouvé ce matin, mais je ne sais plus comment je l'ai trouvé. Ce qu'on va faire, c'est Check News. René. Hop. Voilà. C'est ça. Ok. Donc, bon. Ça a été retiré ? Non, ça n'a pas été retiré. En revanche, bon, bah, avertissement, hein, on est forcément sur des images violentes, quoi. Donc j'ai mis la notification pour le signaler, quoi. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder. D'accord ? Donc c'est une image de mort. Ok ? Ouais. Non mais c'est bon. Représentation violente et choquante, c'est indiqué. C'est bon, c'est suffisant. Let's go. Voilà. Alors après, si on me reproche, hein, de montrer... des images d'actualité sur cette chaîne Twitch, c'est que l'information n'a rien à faire sur Twitch. Voilà. Ok ? Regardons. Donc je vous préviens, on passe sur cette vidéo, ok ? Voilà, Anonyme 31 me le confirme, mon stream s'est interrompu, j'ai dû accepter de regarder un contenu violent, c'est la première fois que ce genre d'avertissement. Voilà. Vidéo, alors il y a plusieurs vidéos, c'est la vidéo 1. La vidéo la plus claire a été filmée au sol à quelques mètres de l'incident par Caitlin Callenson, c'est une résidente de Minneapolis. Donc on a la source de la vidéo. d'une durée de 4 minutes et 26 secondes. Elle montre les instants précédant le décès de René Good, le moment où un agent de l'ICE lui tire dessus à 3 reprises, et l'arrivée d'autres agents qui dispersent les témoins du tir mortel. Je vous décris la vidéo et on va la regarder ensemble. Au début de la vidéo, un agent, celui qui va tirer, se trouve derrière le véhicule Honda de René Good qu'il contourne par sa droite. Il semble filmer la scène avec son téléphone tandis qu'une autre personne le filme à son tour. Sur le côté droit du véhicule, arrêté de René Good, on peut apercevoir un SUV Chevrolet gris clair, portière ouverte. Donc ça, c'est un des véhicules de la police de l'ICE. Séquence obtenue par le New York Times, filmée quelques instants avant, montre que la Honda de René Good bloquait la circulation avant l'arrivée de la Chevrolet grise, hein, puisqu'elle semblait participer à une manifestation contre l'ICE, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors que l'agent poursuit son contournement du véhicule de René Good, celle-ci fait un signe de la main sur sa gauche, vous verrez ce signe de la main, à une voiture pour qu'elle passe devant elle. C'est un des véhicules de l'ICE, donc elle dit à un véhicule de l'ICE de passer devant elle, hein, puisqu'elle est un peu en travers de la route, et le véhicule le fait, sans problème. Elle répète ce geste lorsque le deuxième véhicule de l'ICE arrive, équipé de gyrophares, mais au lieu de poursuivre sa route comme le premier véhicule de l'ICE, le véhicule s'arrête, deux agents en descendent, l'un d'eux lui fait signe du bras en déclarant « Sors de cette putain de voiture !» L'autre qui conduisait s'approche de la Honda de René Good. Lorsqu'il attrape la poignée, le policier qui vient de dire « Sors de cette putain de voiture ». Vous allez l'entendre d'ailleurs ça. La conductrice recule, puis tourne ses roues avant vers la droite. Entre-temps, le tout premier agent a fait le tour du véhicule et se trouve alors sur le devant gauche de la voiture. Lorsque René Good redémarre, cet agent-là sort son arme, la braque sur elle, tire 3 fois, puis esquive la Honda. La voiture de René Good continue ensuite sa route avant de percuter une voiture blanche garée quelques mètres plus loin, sur le côté gauche de la chaussée. Des photographies du véhicule montrent qu'une balle a pénétré le pare-brise sur sa droite. Cet angle de vue ne permet pas de voir si la voiture a effectivement touché l'agent. Rien n'indique toutefois qu'il a été blessé au point d'être hospitalisé. En effet, après avoir rangé son arme, l'agent s'approche, sans problème de santé apparent, de la voiture de la victime, puis fait demi-tour et repart vers le véhicule de l'ICE. Il est alors filmé de près, hein, cheveux poivre et sel, visage partiellement couvert par un cache-nez. La plupart des policiers de l'ICE ont le visage caché par des cagoules, par exemple. Hein, ils n'ont pas de badge d'identification non plus. Quelqu'un me disait tout à l'heure qu'ils n'ont pas non plus de caméra qui enregistre les faits quand ils sont en intervention. Voilà. Hein, c'est une police qui est encadrée par des règles dérogatoires par rapport à la police classique. Voilà. Il est alors filmé de près, cheveux poivre et sel, visage partiellement couvert par un cache-nez, portant l'inscription Police fédérale adjointe. Inquiète de l'état de la victime, la personne qui filme la scène, Kathleen Callenson, s'approche du véhicule. Passant devant des traces de sang dans la neige, elle revient sur ses pas, voit la Chevrolet gris clair faire demi-tour et quitter les lieux. Elle crie alors « Ne laissez pas le meurtrier partir !» Tandis que le véhicule s'éloigne, deux hommes sont visibles à bord, sans qu'on puisse identifier clairement le tireur. Sur le reste des images, la vidéo dure presque 5 minutes, on distingue des citoyens équipés de sifflets rouges dans le New York Times depuis des semaines, les habitants opposés à la récente vague d'agents de l'ICE faisant du bruit pour alerter leurs voisins de la présence des autorités fédérales. Faisaient du bruit. Le journal indique que la police migratoire menait depuis le mois de décembre des opérations de contrôle visant en particulier la communauté somalienne au cœur d'un scandale de fraude sociale. Bon, donc je vous ai mis les avertissements, on va regarder la vidéo. Ok ? Les plus sensibles d'entre vous, si vous ne voulez pas voir cette vidéo, vous pouvez quitter la chaîne, bien sûr. Ok. Donc vous avez ici, si je ne dis pas de bêtises, là, le véhicule de la victime voilà. Qui est en travers de la route. Voilà. Vous avez le bras ici de la conductrice, voilà, fenêtre ouverte. Voilà, donc là, un premier véhicule qui passe. On voit la main à l'instant qui vient de faire le signe de passer. Voilà, on revoit le geste. Et cette fois, on la laisse passer le premier véhicule. Et refait le geste pour la deuxième voiture qui ne passe pas. Qui s'arrête, on vient de voir la voiture s'arrêter et la police, la portière s'ouvrir. Voilà, les deux occupants du véhicule descendent. Et on entend le get out of the fucking car. Ok. Après, je vous referai la vidéo d'une traite. Il essaie d'ouvrir la portière. Vous avez l'intégralité de la vidéo et d'autres vidéos sur le site de Libération. Je crois qu'il y en a 3 en tout. Voilà, celle-ci fait 4 minutes 26, donc c'est assez documenté quand même. On sait qui a tourné cette vidéo et c'est les personnes identifiées. On connaît la source. Hein, en ces temps d'IA, maintenant, il faut toujours s'interroger sur la véracité de la source. A priori, la personne est identifiée, elle est citée par un média. Donc, a priori, on parle de vraies images qui n'ont pas été modifiées. Je vais vous, à la demande de certains, je vais vous repasser le début. Donc, je vous avertis à nouveau, puisqu'au début, j'ai fait plusieurs arrêts sur images pour vous expliquer la séquence. Voilà, et je repasse juste le début. D'accord, ok. Puis après, on va revenir à nos articles. Donc attention, les plus sensibles, je repasse le début de la vidéo. Ok. Ces images, vous pouvez les retrouver alors évidemment sur Internet, les contextualiser, sourcer, expliquer sur notamment le site de Libération ici, sur leur site Check News, hein, qui est un site de vérification de l'information. Voilà, pour ceux qui ont caché le stream, les images, qui ne voulaient pas les voir, vous pouvez revenir, je ne rediffuserai pas ces images, on les a vues deux fois déjà, c'est suffisant. Voilà. Ce que dit la presse française ce matin, unanime là-dessus, Le Parisien, Libération, c'est qu'il n'y a pas d'interrogation possible. À aucun moment, la situation que nous venons de constater ne devait conduire à la mort de cette femme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, cette actualité, on va continuer à la suivre, bien sûr, dans les prochains jours. Voilà ce qu'on en savait ce matin, rapporté par les deux journaux que je viens de vous lire. Peut-être qu'il y aura d'autres informations à venir dans les prochains jours, et je vous tiendrai au courant, bien sûr, de ça. Donc, du coup, j'enlève l'avertissement que j'avais mis dans la notification de stream sur les images violentes, puisque pour le reste de la revue de presse, on va être sur des choses qui sont moins dures, moins violentes, quoi. Voilà. Je vous lis un petit peu et on passe au sujet suivant. Je pensais qu'il était important de passer du temps sur ce sujet. Vous voyez, on a passé 45 minutes sur cette question. Je pense que c'est bien le minimum. Ouais. Baron Rouge écrit ce que tout le monde devrait constater. La voiture gênait à peine la route. Je vous rappelle que selon l'administration américaine, cette femme-là que vous avez vue dans la voiture là, est une terroriste. Pardon pour le silence, je suis en train de lire le chat. Et là, pourquoi on parle de cette histoire-là? Parce que c'est filmé. Aussi, parce qu'il y a des images. Sutibu photo dans le chat, parce que c'est pas la première fois qu'on parle de l'ICE ici, hein. Les gens qui donnent raison à l'ICE, sérieusement, j'ai quelques propos dans le chat, isolés, très isolés, mais qui sont écrits et que je vois. Les gens qui donnent raison à l'ICE, sérieusement, on sait depuis des mois que même des gens en règle se font arrêter, hein, et se retrouvent en centre pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Il y a des étrangers en situation régulière aux États-Unis, c'est documenté, qui sont arrêtés par l'ICE et qui sont interpellés. Et qui sont emprisonnés. C'est une information. C'est normal pour vous, pour l'interrogation, demande-t-il. N'importe qui serait stressé dans cette situation, à part les partisans de Trump et sa clique. Je remonte le chat. Captain Grobert dans le chat écrit. Il ouvre le feu sans réelle sommation. Le premier tir intervient avant un éventuel danger. Aucune analyse du contexte. C'est un meurtre. Et je sais de quoi je parle, me dit Captain Grobert. Je suis armé dans mon métier. Je lis encore quelques messages et puis je vous propose qu'on y revienne dans les prochains jours. la Zirata dans le chat à nouveau. Que une seule personne puisse trouver cela justifiable, c'est déjà trop. On est un pays de droit, on doit donner l'exemple même à un niveau individuel. Donc là, tu t'adresses à certains dans le chat qui ont tenté de justifier ce qui s'est passé, puisque j'ai vu quelques messages en ce sens. Allez, je lis un dernier message. Moi, je voudrais souligner aussi quand on a passé la vidéo, c'est que certains soulignaient aussi le courage de la personne qui filmait, quoi. Et qui interpelle les policiers et le policier impliqué dans ce qui s'est passé, quoi. Moi, je veux, pour ceux qui me questionnent sur ce que j'aurais fait moi, ou oui, mais quand même, vu le contexte, des armées, des policiers armés cagoulés, moi je me serais arrêté, moi je serais descendu de la voiture. Je viens de lire des messages qui disent, elle est quand même un peu responsable. Je viens de le lire là. Moi, je vous dis ma position là-dessus. Rien de ce qui s'est passé, rien de cette situation n'aurait dû conduire à la mort de cette femme. Point. Voilà. Allez, on aura l'occasion d'en reparler, mais je voulais prendre un petit peu de temps sur ce sujet. On va rester avec Trump, pour le coup, puisque c'est lui qui est à l'origine du renforcement des moyens de l'ICE. Mais on va parler du Groenland. Voilà. Avec le constat notamment de l'impuissance de l'Union européenne. Je ne vais pas revenir sur toute l'affaire du Venezuela, on en a parlé de longues heures, on aura l'occasion d'en reparler. La une de Libé ce matin, c'est qui peut sauver le Groenland? La réponse, c'est personne pour l'instant. Face à Trump et à ses menaces de conquérir ou acheter le territoire sous tutelle danoise, l'Europe peine à sortir de sa passivité. Et on a un article qui est extrêmement clair qui dit « L'Union européenne, c'est un tigre ». Oui, c'est un tigre, parce que l'Union européenne, n'en déplace à ses tracteurs, c'est une vraie puissance économique et militaire. Sauf que c'est un tigre de papier. Parce que cette puissance, elle ne l'utilise pas. En tout cas, face à l'impérialisme américain. L'Europe n'étant pas un État capable de faire la guerre, mais une confédération sans leadership, entre des pays qui ne sont pas d'accord sur tout, elle serait incapable de résister à cette volonté des États-Unis de faire main basse sur une partie de son territoire, puisque là, c'est un focus sur le Groenland. Lisons l'article. Hein, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué un petit peu ces jours derniers, mais qui nous permet un petit peu de nous interroger sur que peut faire l'Union européenne. La plupart des articles qu'on a lus ces derniers jours sur la question disent bah, rien, les Européens vont rien faire. Ouais, peut-être qu'on se trompe hein, d'ailleurs. Ouais. Que fera l'Union européenne si les États-Unis annexent demain le Groenland? La réponse est simple, bien entendu, nous ne ferons rien. Une formule qu'on doit à Claude Chesson, ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, réagissant à l'époque au coup d'état du général Jaruzelski, voulu par l'URSS, qui voulait casser le mouvement démocratique. C'était en Pologne, non, Jaruzelski, c'est ça? Mais à l'époque, cet aveu d'impuissance, certes brutal, pouvait se comprendre. La République populaire polonaise, ouais, c'est ça, était de l'autre côté du rideau de fer et intervenir, c'était entrer en guerre contre l'Union soviétique, ce que personne ne souhaitait. Cette fois, la situation est a priori différente, puisque c'est un territoire appartenant à un État membre de l'Union, donc on n'est pas en Europe de l'Est soviétique, le Danemark qui est menacé. Le fait que ce soit par son plus vieil allié, les États-Unis, ne change rien. Parce qu'il y a quand même deux pays membres de l'OTAN, Danemark, États-Unis. Les pays européens, comme l'article 42.7 du traité de l'UE, leur en fait l'obligation. Hein. Si un État membre fait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir. Ce que prévoit aussi l'OTAN, par ailleurs. Donc, si Libé rappelle que selon les règles de responsabilité d'engagement de l'OTAN et de l'Union européenne, si le territoire danois, le Groenland, était attaqué et la cible d'une opération militaire américaine, normalement les pays européens devraient intervenir. Voilà. Mais ils en sont bien incapables. Si demain les États-Unis décident de s'emparer du Groenland, ni le Danemark, ni l'UE n'ont les moyens de s'y opposer, estime Jean-Marie Guéhenno, qui est ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Pourtant, sur le papier et en principe, pourquoi dans ce titre, il y a... cette expression « tigre de papier ». Alors, de papier, ça on a bien compris, mais il y a « tigre ». Certains disent « oui, tigre », certains ironisaient un petit peu en disant « tigre chatounet », quoi. Pourquoi il parle d'un tigre ? Voilà. Parce que Libé nous rappelle que, sur le papier et en principe, l'Union dispose de moyens. Elle est l'une des trois superpuissances qui dominent le monde avec les États-Unis et la Chine. La Russie, un pays de 144 millions d'habitants en plein hiver démographique et intellectuel, incapable de conquérir l'Ukraine après 4 ans de guerre, ne compte plus que par ses oripeaux nucléaires. L'Union européenne, ses 450 millions d'habitants, plus de 525 millions si on veut ajouter le Royaume-Uni et la Norvège, c'est autre chose. Première puissance commerciale, l'Union européenne, devant les États-Unis et la Chine. Deuxième puissance financière grâce à l'euro. Seconde monnaie de réserve de la planète. Même sur le plan militaire, l'Union européenne, sur le papier, c'est un géant. 450 milliards de dollars de dépenses militaires, 380 milliards d'euros, un budget en augmentation rapide. C'est certainement moitié moins que le budget américain, mais loin devant la Chine, ce qui est intéressant quand même, 246 milliards de dollars, et la Russie, 150 milliards de dollars. Sa base industrielle, notamment en France, en Allemagne, en Suède, est particulièrement solide, surtout innovante, comme le montre la qualité des matériels qu'elle produit. Enfin, sauf le moteur, la PureTech. Là. Je ne suis pas un spécialiste de bagnole, mais il paraît que ce n'est pas fou. Enfin, la France et le Royaume-Uni sont des puissances nucléaires qui ont les moyens de rayer de la carte un pays qui menacerait l'Europe. Mais voilà, l'Union européenne est un tigre de papier, car elle n'a jamais été souveraine. Puisqu'elle, depuis 80 ans, elle organise sa dépendance à l'égard des États-Unis. Ainsi, en dépit des sommes pharaoniques consacrées à la défense, vous êtes plusieurs à me dire que Sylvain Live, une vidéo sur le PureTech hier, ça je ne savais pas, même si j'aime beaucoup Sylvain. Ainsi, en dépit des sommes pharaoniques consacrées à la défense, fausse de coordination entre États membres, elle n'a pas la capacité de mener une guerre de haute intensité sans le commandement américain et ses moyens de renseignement, de surveillance, de reconnaissance, sans la logistique, les munitions, les bombardiers lourds, les missiles américains. Et les pays européens ont tellement intégré cette dépendance qu'ils continuent à acheter près de 80% de leur matériel militaire hors de l'Union, dont les trois quarts aux États-Unis. Alastair écrit, on paye le prix de notre... pas indépendance, de notre dépendance aux États-Unis. Même si des matériels équivalents existent sur le marché intérieur. Ainsi le Danemark. Le Danemark est menacé depuis un an par Trump. Continue de se fournir en avions américains, hein, vous le savez, qui peuvent être cloués au sol sur des sillons de la Maison-Blanche. On se demande même si le Danemark n'a pas acheté les derniers F, je sais pas quoi, là, pour tenter d'amadouer Washington en mode, vous voyez, on continue à acheter vos avions, soyez cool, quoi. Enfin, les F-35, voilà. Non mais, ouais, c'est vrai, c'est une très bonne question, quoi. La dépendance est le même sur le plan technologique, numérique en particulier. Hein. Trump a menacé les Européens en juillet de leur couper Internet s'ils osaient répliquer à ses droits de douane. Tous les moyens de paiement européens dépendent des États-Unis, hein, c'est Visa, Mastercard, tout ça, hein, qui peuvent donc paralyser, s'ils le souhaitent, l'économie européenne du jour au lendemain. C'est des vraies questions. Sur le plan financier, même chose. Les entreprises du vieux continent ont un besoin vital du marché américain, faute pour la zone euro d'avoir créé une union des marchés de capitaux. Or, on ne sort pas de 80 ans de dépendance. Oui, il y a d'autres moyens de paiement que Visa et Mastercard. Mais ils sont très dominants. On ne sort pas de 80 ans de dépendance, soit trois générations, du jour au lendemain. Les Américains sont habitués à traiter les Européens en vassaux, les Européens sont habitués à traiter les Américains en maîtres. Ce n'est pas un hasard si les insultes répétées de Trump et son administration n'ont reçu aucune réponse, l'Europe préférant en rajouter dans la flagornerie, à l'exemple du néerlandais Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui appelle Trump « papa ». Dès lors, comment s'étonner que l'Union, tel un lapin pris dans les phares d'une voiture, soit incapable de réagir aux menaces de Trump autrement qu'en publiant un énième communiqué au lieu d'annoncer, oui, c'est pas bien, vraiment, vraiment, hein, d'annoncer qu'elle enverra des troupes au Groenland en cas de nécessité pour décourager toute agression. Ce qui serait de fait une manière de montrer les crocs. Un communiqué qui dirait, bon, les gars, si vous envoyez des troupes sur le sol du Groenland, on enverra également des troupes. Certes, Friedrich Merz, le chancelier allemand, dans un discours prononcé à Munich en décembre, a reconnu que les décennies de Pax Americana sont de fait achevées, mais ce constat partagé par ses pairs ne débouche sur rien. Le drame est qu'on ne voit pas comment un sursaut pourrait survenir. L'Union européenne n'est pas un État, mais une confédération d'États aux intérêts souvent opposés. On l'a vu encore récemment sur le Mercosur, dont on va parler tout à l'heure, vous le voyez dans le sommaire. Souvent opposé et surtout dénué de tout leadership. Sa gouvernance parfaitement adaptée pour fabriquer du compromis entre ses membres est totalement inefficace vis-à-vis de l'extérieur. Pourtant, elle pourrait être suppléée par l'expression d'une véritable volonté politique commune, au moins des grands États, volonté pour l'heure actuellement absente. Si les États-Unis étaient dirigés par un conseil des 50 gouverneurs des États fédérés, décidant à l'unanimité, quelle serait la puissance des États-Unis ? On le voit, c'est un article qui appelle à plus d'intégration européenne. C'est-à-dire qu'une Europe qui parle d'une même voix sur un plan politique, par exemple, et militaire aussi, bon, il n'est pas sûr que les Européens, les dirigeants et les peuples la souhaitent. On voit que dans les 10 pays européens, parmi les partis politiques en dynamique, parmi les partis qui montent, ce sont des partis nationalistes d'extrême droite qui ne sont pas du tout alignés sur la ligne qui est évoquée dans cet article. Excusez-moi, je regarde un truc. Je fais du fact-checking en même temps. Discrètement. Fin d'article. La seule voie de sortie pour l'Union serait donc d'effectuer un saut fédéral. Mais qui est prêt à ça ? Mais qui est prêt à ça ? Ce qui relève aujourd'hui du fantasme, que ce soit à 27 ou à quelques-uns. D'autant que partout en Europe, les forces populistes et europhobes ont le vent en poupe. Ah, vous le savez. L'Union ressemble furieusement... Waouh, la fin de l'article est super pessimiste. L'Union européenne ressemble furieusement à la Chine des kings finissants. Ou à la sublime porte épuisée de Constantinople, des empires trop divisés pour décourager des prédateurs économiquement et militairement dominants. À l'époque, le Royaume-Uni et la France. L'Europe connaîtra-t-elle le même sort, dépecé, vassalisé, témoin impuissant de sa propre décadence ? Jean Quatremer, correspondant européen de Libération, qui écrit ce papier ce matin. Voilà. Pas très optimiste, quoi. Bon, après, j'ai pas trouvé beaucoup d'articles très optimistes sur la capacité des Européens à empêcher les ambitions trumpiennes sur le Groenland. J'en ai pas trouvé, en fait. Je vous lis en même temps. Longtemps, on a cru que c'était nos alliés, le réveil est dur. Alors, l'Amérique du président Trump aujourd'hui ne peut pas vraiment être considérée comme un allié, vous l'avez bien compris, de l'Union européenne ou de la France. L'Amérique de Trump, mais l'Amérique n'a pas toujours été l'Amérique de Trump et l'Amérique ne sera pas toujours l'Amérique de Trump. Après, tout dépendra des scrutins électoraux à venir aux États-Unis. Il y a les élections de midterm qui arrivent dans un an. Dans 3 ans, il y a la prochaine présidentielle aux États-Unis. Bon. Après, dans 3 ans, c'est aussi un candidat MAGA qui peut être élu. Rappelons que le vice-président américain, Jed Evans, se voit très très bien à la Maison-Blanche. Puisque Trump ne peut pas trop se représenter. Pardon. Un petit chat dans la gorge, ouais, c'est l'hiver quoi. Jed Evans a l'air plus radical que Trump, dit Alastair. Oui. Oui, il se dit que Jed Evans est plus radical que Trump. Ouais. Celle des Bush n'était pas très Europe-friendly aussi, me dit Libraimovic, qui a raison. Mais je crois qu'avec Trump, on a quand même franchi un autre niveau, quoi. Je vous lis. Ah oui, j'ai été interpellé par quelques messages tout à l'heure sur, à propos, vous savez, de la séquence sur la mort de la mère de famille américaine tuée par le policier de lycée en disant « Ah oui, mais Samuel, je ne comprends pas cette chaîne, comment tu peux tolérer que certains s'expriment ainsi sur ta chaîne ?» Donc pour les propos, les quelques propos extrêmement problématiques qu'on a lus tout à l'heure. Alors c'est une chaîne un peu particulière ici, puisque j'essaie d'avoir la tolérance maximale pour les gens qui ne pensent pas comme moi. Je sais qu'il y a des chaînes, notamment certaines chaînes qui s'intéressent à l'information, où le rapport à l'altérité dans la pensée est un peu différent, et où il arrive que toute idée s'éloignant un peu trop de la pensée dominante du créateur de contenu ou de sa communauté est sanctionnée, mais écartée. Et comme ça, on se retrouve entre nous, à tous penser ensemble la même chose, et on est content, et on se tape sur le ventre, et c'est formidable. Alors ça ne m'intéresse pas beaucoup. Voilà. Et effectivement, je suis parfois extrêmement choqué par l'expression de certaines idées dans le chat. Et parfois je m'énerve d'ailleurs, tout seul. Mais je, sauf si les propos sont problématiques, illégaux, discriminants ou sont empreints d'une forme de violence par exemple vis-à-vis d'autres viewers, et dans ce cas-là vous savez que la modération elle est extrêmement réactive sur cette chaîne et peut être extrêmement sévère, mais l'expression d'une idée différente, aussi choquante me soit-elle à mes yeux, n'est pas motif suffisant à l'exclusion. Je ne cherche pas à créer une communauté où tout le monde est d'accord, ça ne m'intéresse pas. Il y a des chaînes où ça existe, vous les connaissez peut-être, libre à vous de les rejoindre, voilà. Mais moi j'aime bien le débat, j'aime bien être bousculé et parfois provoqué par des gens qui ne pensent pas comme moi. Voilà. Et si cette démarche ne vous va pas, si vous n'arrivez pas à supporter le fait que des gens pensent autrement que vous, et parfois de façon très choquante, je l'entends, hein. Eh bien, effectivement, cette chaîne n'est pas pour vous. Voilà. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que parfois, des gens de pensées extrêmement différentes et de camps extrêmement différents et opposés m'attrapent régulièrement la veste sur différents sujets. Voilà. Bon, c'est ce que j'essaie de faire. Je réponds aux personnes qui me posaient la question tout à l'heure. Hein, si vous voulez rester uniquement avec des gens qui pensent exactement comme vous, vous vous enfermez dans une bulle, bon, qui est formidable, hein, qui est un peu confortable, hein, mais je pense que c'est assez dangereux en fait. Hein, cette polarisation extrême de la société américaine, par exemple, qui est en train de se produire chez nous aussi, hein, on a de plus en plus de camps persuadés d'avoir raison contre tous les autres, et qui exprime cette certitude avec une violence grandissante, pour l'instant verbale. Mais jusqu'où ça ira ? Voilà. Cette évolution de la société, moi, elle ne me va pas. Voilà. Et moi, j'aime bien parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Et je trouve que Twitch est un magnifique outil pour le faire. Voilà. Pardon pour cette parenthèse, mais qui me semble importante. Le Mercosur ? Allez, oh Mercosur, je voulais tellement pas vous en parler ce matin. Pouf, la flemme. Alors là, vraiment, c'est un peu aride, hein, c'est un peu sec. Mais bon. En même temps, plein d'articles ce matin, tous les journaux en parlent du Mercosur, a priori bientôt adapté. C'est même la une du Figaro, mais plein de journaux en parlent. J'ai un article dans Libération, j'ai un article dans le Figaro, j'ai un article dans l'Humanité, des journaux aussi différents. On parle avec des avis différents. Et puis, oh là, c'est quand même. Et puis, c'est un sujet qui est vu d'un prisme français. Et ça crée beaucoup de tensions. Et franchement, flemme. Et puis après, je me suis dit oui, mais c'est pas parce que c'est une info qui, toi, t'inspire pas trop ce matin qu'il faut que tu la mettes de côté. Parce que je crois que c'est une info importante. Donc voilà, il est là le dossier Mercosur qui est en voie d'adoption. Et je vais essayer d'y mettre toute la passion que je peux. UE, Mercosur, la France dit non, vous le savez, voilà. Mais pourtant l'accord est en voie d'adoption. L'Italie, qui a été quelques jours durant alliée de la France dans l'opposition au Mercosur, finalement s'est ralliée à la majorité des États pour autoriser la Commission à signer le traité commercial avec le Mercosur. Il y a Camille qui me dit « Macron a dit qu'il ne le signera pas ». Oui, mais on s'en fout. Enfin, les Européens s'en foutent, puisque l'opposition de la France, par la voix du président Macron, ne suffira pas à bloquer le Mercosur. Malgré l'ultime concession jugée incontestable par Paris, Emmanuel Macron a assuré jeudi qu'il voterait contre l'accord sans pouvoir empêcher son approbation. Quand je dis la France, quand je parle de ce sujet, c'est la France au sens politique du terme, c'est-à-dire l'exécutif français, le gouvernement français, l'État français représenté par le président Macron. C'est pas la France, je ne confonds pas cette évocation politique d'un pays avec son peuple, bien sûr, quoi. Vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Quand tu dis la France, tu dis pas les Français, hein ? Non. Mais je pense que vous êtes suffisamment intelligent pour le comprendre. Alors lisons l'article de Libération pour commencer. Ursula von der Leyen, donc c'est la présidente de la Commission européenne, devrait pouvoir prendre l'avion ce week-end, donc c'était un peu son rêve du moment, hein, pour se rendre au Paraguay pour signer formellement lundi prochain l'accord commercial avec le Mercosur. Le Mercosur, c'est quel pays ? Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay. Cher Alex, on va prendre un thé, bordel. Ce n'est pas la première fois. Voilà. Conclu politiquement, il y a un an, après 25 ans de négociations, ça fait 25 ans qu'on en parle. Voilà. La présidente de la Commission européenne espère, elle, faire le 20 décembre. Voilà, elle a été retardée. Mais l'Italie avait rejoint in extremis pour imposer un sursis de quelques semaines afin d'obtenir des garanties supplémentaires pour ses agriculteurs. Voilà. Et puis l'Italie, finalement, a dit « Ok, let's go, c'est bon ». Ce que Rome estime avoir obtenu mercredi lors d'une réunion extraordinaire des 27 ministres de l'Agriculture. L'Italie a fait savoir qu'elle était satisfaite, ben voilà, hein, et a laissé clairement entendre qu'elle voterait en faveur de l'autorisation que les États membres doivent donner à la Commission pour signer formellement l'accord avec le Mercosur. Donc a priori, ça va se faire. Ce traité offre d'énormes avantages et un potentiel considérable. Donc là, vous avez certains agriculteurs français qui vont tousser très fort, bien sûr, mais on va en parler, hein, les agriculteurs français, hein, rassurez-vous. Hein ? Ce traité offre d'énormes avantages et un potentiel considérable, a expliqué le ministre italien des Affaires étrangères, qui s'appelle Antonio Tajani. Voilà. Expliquant ce qui, de prime abord, peut ressembler à un revirement, moins d'un mois après le blocage de Rome et Paris. L'Italie n'a jamais changé de position, dit le ministre. Nous avons toujours soutenu la conclusion de cet accord en insistant sur la nécessité de prendre dûment en compte les préoccupations légitimes du secteur agricole. Ce que les partisans du Mercosur disent, c'est que la France a aussi obtenu beaucoup de concessions sur les questions agricoles, mais que, pour des raisons de politique interne, le président Macron, face à la fronde notamment des agriculteurs, en plus il y a vous savez, les abattages de troupeaux bovins en ce moment-là, dit en fait, ben ouais, en vrai, je pourrais signer l'accord, mais là, vu la situation intérieure du pays, je peux pas. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit. Je crois qu'il a, il a, il l'a laissé entendre assez fortement dans ses dernières déclarations. Après ce ralliement italien, la messe est dite, la minorité de blocage que Paris avait réussi à constituer, donc Pologne, Hongrie, Irlande s'opposant aussi à cet accord, n'existe plus puisqu'il faut pour cela réunir 13 pays sur 27, soit des États pesant plus de 35% de la population européenne. Donc la France n'est plus en capacité, seule avec la Pologne et la Hongrie, de bloquer cet accord du Mercosur. Voilà. Mais la France persiste dans son refus. La France, le président Macron l'a dit, ne va pas signer l'accord. Malgré les avancées incontestables dont ils font donner acte à la Commission européenne, le constat doit être dressé d'un rejet politique unanime de l'accord, comme l'ont clairement montré les récents débats à l'Assemblée et au Sénat. C'est intéressant d'ailleurs, parce que dans cette phrase, le président Macron dit pas tant qu'aujourd'hui, pour lui, l'accord n'est pas signable. Il dit, ah, il y a eu des avancées, il y a eu des avancées incontestables sur la question agricole. Voilà, mais je constate qu'il y a un rejet politique unanime de l'accord. Notamment, je l'ai vu à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, en l'état, ce n'est pas signable. C'est intéressant. L'étape de la signature de l'accord ne constitue pas la fin de l'histoire. Continuerai de me battre pour la pleine mise en œuvre concrète des engagements obtenus de la Commission européenne et pour protéger nos agriculteurs, dit Macron. Voilà. Vendredi, les représentants permanents des États vont se réunir afin de lancer une procédure écrite qui se conclura dimanche matin. Si une majorité qualifiée est constatée, 55% des États représentant 65% de la population européenne, eh bien, Ursula von der Leyen pourra embarquer pour le Paraguay pour signer cet accord au nom de l'UE. Donc ça, c'est un petit peu pour le cadre. Alors, les fameuses concessions évoquées là par l'Italie et un peu par Macron aussi. Avant la réunion du Conseil des ministres de l'Agriculture de mercredi, la présidente de la Commission avait envoyé une lettre aux États membres leur proposant, dans le cadre des perspectives financières 2028-2034, je vous avais prévenu, c'est un petit peu aride, hein, mais parfois il faut savoir être aride sur un sujet, d'accorder 45 milliards de plus à la politique agricole commune. Giorgia Meloni, par exemple, la présidente du Conseil italien, a dit: J'accueille avec satisfaction cette enveloppe supplémentaire pour l'agriculture européenne. Emmanuel Macron qu'a-t-il déclaré? La souveraineté agricole et alimentaire de l'Europe est ma priorité, la PAC en est le fondement, donc j'accueille favorablement les annonces de la Commission européenne. Parallèlement, la Commission a fait d'autres concessions pour calmer la colère agricole. Merci Waggle pour ton message qui me fait trop plaisir. J'ai presque envie de l'épingler, mais après on va dire que je flex, mais merci. Elle a ainsi proposé que la taxe carbone aux frontières, entrée en vigueur le 1er janvier, ne s'applique finalement pas aux engrais, sujet majeur de préoccupation pour les céréaliers tricolores, mais un recul environnemental supplémentaire. Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières vise en effet à taxer les importations de produits à forte intensité carbone, acier, aluminium, ciment, engrais, électricité, hydrogène. J'aurais voulu vous en parler il y a quelques jours de ça, mais j'avais trouvé un article qui était super compliqué. Pour aligner leurs coûts sur celui des producteurs européens soumis au système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. De même, la Commission européenne a promis de réduire certains droits de douane sur l'engrais azoté et ammoniaque. Voilà. Donc voilà, des mesures de soutien à l'agriculture, mais c'est des reculs environnementaux. Enfin, pour faire droit aux inquiétudes de la France sur l'utilisation de pesticides interdits en Europe dans les produits exportés par les pays du Mercosur, parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, hein. Cet accord du Mercosur va ouvrir nos frontières à des produits qui sont des produits alimentaires qui sont produits dans des conditions que nous n'acceptons pas, nous, en Europe, notamment avec les pesticides. Et donc, sur cette question, Bruxelles a dit qu'il allait interdire tous les résidus pour trois substances. Carbendazime, bénomyle et thiophanate méthyle dans les produits comme les agrumes, les mangues ou les papayes. Alors que jusqu'à présent, il existait une marge de tolérance là-dessus. J'ai vu un article cette semaine que je ne vous ai pas lu. Attention, bientôt, il n'y aura plus de mangue et de papaye. Suite à ça. En dépit de tout ce qu'a déjà obtenu la France, de la prise en compte de l'accord de Paris aux clauses de sauvegarde en passant par les pesticides, les engrais, l'augmentation du budget agricole, donc tout ce qu'on vient d'évoquer ici pour résumer, voilà. Emmanuel Macron persiste donc à refuser de voter en faveur de cet accord, essentiellement pour des raisons de politique intérieure, reconnaît-il implicitement dans son communiqué qu'on a vu tout à l'heure, hein. Outre les menaces de censure du gouvernement du côté de LR, parce que LR, effectivement, alors j'ai vu une déclaration de Bruno Retailleau, je crois, le patron de LR, dire « Ok, Macron va voter contre, mais nous on s'en fout que Macron vote pour ou contre, donc que la France représentée par Macron vote pour ou contre, si l'accord de Mercosur passe, eh ben nous, on fera une motion de censure contre le gouvernement. » Voilà. Donc, Emmanuel Macron persiste à refuser de voter en faveur de cet accord essentiellement pour des raisons politiques intérieures. Il est vrai que le calendrier politique est compliqué. Outre les menaces de censure de gouvernement du côté de LR, juste avant le salon de l'agriculture et à 2 mois d'élections municipales plus que compliquées, la mobilisation agricole ne faiblit pas. Alors, ainsi jeudi matin, des dizaines de tracteurs, ça c'était à Paris notamment, membres du syndicat Coordination Rurale sont entrés au cœur de Paris pour protester contre l'accord. Je crois qu'ils sont arrivés jusque sur les Champs-Élysées. C'était une opération surprise. Hein. Ils ont réussi à s'installer avec leur pancarte hostile juste devant la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Le problème est qu'Emmanuel Macron va payer cher sur la scène européenne son opposition au traité UE-Mercosur. La France qui veut exercer un leadership européen a toujours veillé à ne jamais faire partie des minorités. Cela montre une perte d'influence. Surtout que l'agriculture n'est qu'une partie infime d'un accord UE-Mercosur qui porte avant tout sur les produits industriels et les terres rares et qui vise aussi à riposter à la guerre commerciale lancée par Trump en trouvant de nouveaux débouchés commerciaux hors États-Unis et en montrant que l'Europe n'est pas prête à se faire expulser du continent américain comme l'annonçait pourtant Trump. Un moindre mal aurait été, alors ça c'est l'avis de Libération hein, dans cet article, une abstention plutôt qu'un vote contre. Ce qui juridiquement revenait d'ailleurs à un vote contre. Mais aura envoyé un signal différent à l'adresse de ses partenaires, et bien sûr du Mercosur. Entre ménager quelques producteurs de viande bovine, donc la Libération va se mettre à dos tous les agriculteurs qui sont opposés au Mercosur, hein, entre ménager quelques producteurs de viande bovine ou venir titiller Trump dans son arrière-cour alors qu'il menace d'annexer le Groenland, Emmanuel Macron a choisi. Alors, j'ai plusieurs articles sur le sujet, alors je vais essayer de voir ce que je vous lis. J'ai 3 articles, enfin j'ai plus que ça, mais j'ai 3 journaux qui en parlent. Voilà, bon là on va passer par exemple au Figaro. Oui mon clama coquine, c'était marqué. Voilà. Confronté à la colère agricole, Macron vote contre le Mercosur. Bon, ça, c'est les mêmes infos. Qu'est-ce que le Figaro dit de plus ou de différent ? Voilà. Ah, tiens, Libération disait il aurait mieux fait de s'abstenir plutôt que de voter contre. Merci, Clama Coquine. Et le Figaro dit oui, mais s'abstenir, c'était entretenir une ambiguïté qui aurait sans doute décuplé la colère des agriculteurs. En guise de nouvel avertissement, les tracteurs de la coordination rurale ont déboulé jeudi près de l'Assemblée nationale, de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel à Paris. Surtout, les alertes se multiplient sur une possible censure du gouvernement, de Le Cornu donc, déjà empêtré dans les négociations sur le budget. Alors, le budget, je pourrais vous en parler tous les jours, c'est un enfer, hein. Ça n'avance pas. Au jeu de qui perd, perd. Emmanuel Macron devait choisir entre la déconsidération de l'écosystème européen et les foudres de l'opinion nationale. Dans son entourage, on admet que les motifs de politique intérieure l'ont emporté. C'est intéressant parce que Libé et le Figaro sont complètement d'accord sur l'analyse. Emmanuel Macron considère que le Mercosur est devenu un symbole bien trop fort pour ne pas s'y opposer frontalement. Même s'il ne manque pas de pointer devant ses visiteurs, on va dire hors caméra, hors micro, que cet accord est loin d'être l'alpha et l'oméga des difficultés de l'agriculture française. Emmanuel Macron, qui martèle depuis plusieurs années que le texte n'est pas acceptable en l'état, essaie pourtant de faire valoir les concessions qui ont été arrachées à Bruxelles. Hein. Mais à l'Élysée, on a bien compris que ces mesures, qui n'ont pas de lien direct avec le Mercosur, apaisent à peine la colère dans les champs où le désarroi s'est répandu avec l'abattage total des troupeaux bovins infectés par la dermatose nodulaire contagieuse, dont on a beaucoup parlé ici. Donc là, c'est les infos de qu'on trouvait dans Libé aussi. Ça, je lis un peu en diagonale, hein, pour ne pas vous répéter 10 fois la même chose. Alors, quelqu'un me disait tout à l'heure, attention Samuel, hein, c'est pas parce que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, va signer l'accord du Mercosur que c'est terminé. Et tu avais raison. Mais j'attendais de lire ce passage pour te le dire. J'ai oublié ton pseudo, je m'en excuse. Hein. Le sort de l'accord est aussi entre les mains du Parlement européen, qui doit se prononcer sur une possible saisine de la Cour de justice de l'UE, puis sur la ratification du texte. Tu as raison. Camille le savait aussi, je vois. Sur un axe de retour. Tu reviendras de façon. Hein. Je l'ai dit Camille. Je sais, Camille. Il faut aller au bout de la démarche en saisissant la Cour de justice de l'UE qui permettrait de remettre en cause la procédure d'adoption. Insiste un député LR qui s'appelle Julien Dive. Si le président ne le faisait pas, ce serait une provocation. Okay. Voilà. Et puis après, tout à l'heure, là, je suis sur le Figaro, mais je vous lirai l'Humanité, qui est vraiment vent debout contre le Mercosur et qui dit que c'est une dinguerie et que c'est que pour la qualité de la bouffe en France, pour nos agriculteurs, c'est scandaleux. Voilà, je vous lirai ça tout à l'heure. Voilà. Mais là, on a déjà cet article du Figaro qui nous explique, c'est intéressant, que les filières agricoles françaises sont divisées sur l'accord Mercosur parce que certains vont être impactés négativement ou craignent de l'être très très fort et d'autres, les viticulteurs notamment, eux sont plutôt très contents. Mais ne le disent pas très fort d'ailleurs, parce que c'est compliqué. Certains secteurs comme les vins et les spiritueux, par exemple, y voient une opportunité d'ouvrir de précieux marchés à l'heure où les guerres commerciales fragilisent l'export. Merci, monsieur Trump. Hein. Tout ça, c'est. À un moment, tout ça, c'est de sa faute. Hein. À un moment, on va faire simple. Hein. À un moment, c'est quoi? On va se trouver le responsable de tous nos maux. Hein. Mal dormi. Le vent là, le vent en France là, voilà. Le pouvoir d'achat, voilà. Le système de santé français, la gastro de Noël. À un moment, les gars, on va dire Trump, hein. Ça va être plus simple. Hein. Les hémorroïdes, let's go, voilà. Non, parce que comme ça, sera plus simple. Comme ça, on pourra jouer à Valo. Non, j'ai des conneries, bien sûr. Alors, les agriculteurs français divisés, donc. Mercosur, mort à coup sûr, notre faim, votre faim, oui au prix juste, non au traité injuste. Depuis plus de décennies, parce que ça fait 20 ans que ce traité est en discussion, les slogans exhibés lors des manifs agricoles contre les traités de libre-échange ont donné le ton. L'accord en discussion avec les pays du Mercosur a reçu le même accueil. Dans les cours de ferme comme dans les plaines des grandes cultures, l'opposition à un texte jugé pénalisant pour le monde paysan semble assez nette. Voilà. Mais en réalité, derrière l'unité de façade de la ferme France, des divisions ont fini par apparaître entre les différentes filières agricoles. Parmi les pro-Mercosur, parce qu'il y a des pro-Mercosur, celle des vins et des spiritueux, hein, l'un des piliers de la puissance française agricole à l'export, jusqu'à cette année-là, 2024, les viticulteurs comme négociants français étaient restés discrets sur le sujet dans un souci de solidarité paysanne. Mais les guerres commerciales avec les États-Unis et la Chine, et la grave crise de certaines régions viticoles ont changé la donne. Depuis 2 ans, les exportations de la filière sont sous pression. Voilà. Dans ce contexte, bon, bah, ils sont en train d'expliquer qu'eux, ils sont plutôt pour le Mercosur, quoi. J'avais pas compris la blague de Cyril tout de suite. Moi, je suis plutôt BMW sourd, parce que je parle du Mercosur. Alors allons-y. Alors allons-y. Hein. Audi sourd. Hein. Dacia sourd. Renault sourd. Allons-y. Faites-vous plaisir. Hein, puisque voilà, tout est autorisé désormais. Hein, ici. Si, Merco. Sugar, Merco, Mercedes. Sugar, il l'a pas. Mercosur. Multipla. Oui, Multipla. Mais oui. Voilà, Volvo. Voilà, bien sûr, allez-y. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, les viticulteurs, plutôt pour, quoi. Dans les élevages français maintenant, les positions varient d'une ferme à l'autre. Si les éleveurs bovins sont en tête des cortèges anti-Mercosur, producteurs et industriels du lait, trouve des avantages à l'accord. Producteur de fromage notamment. Alors que certains produits laitiers européens, crème, fromage, sont soumis depuis décembre dernier aux frontières chinoises à des droits de douane provisoires de 21-42%, l'ouverture de nouveaux débouchés intéresse la filière. Les volaillers sont très contre le Mercosur, le producteur de volaille. Les producteurs de betteraves aussi. Mais c'est la filière viande qui est la plus mobilisée, hein, face à ce qu'elle considère comme une provocation. Voilà. Alors pourtant, écrit le Figaro, les volumes considérés, 99 000 tonnes de viande de bœuf à droit réduit prévues par l'accord ne pèsent pas plus de 1,6% de la production de l'UE. Mais les éleveurs s'estiment quand même victimes de concurrence déloyale. Aucune mesure de réciprocité sur les normes de production n'est prévue. Rien sur l'alimentation animale et l'usage d'antibiotiques activateurs de croissance. Rien sur le bien-être des animaux. Rien sur l'environnement. Rien sur la traçabilité sanitaire des animaux. Mais ça, on va le lire beaucoup dans l'Humanité. Maximilien dit, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne parle pas de bénéfices pour la France. Bah, en fait, ce que certains articles expliquent ce matin, c'est que des partisans en France de cet accord, alors certains agriculteurs, mais l'industrie aussi, les services financiers, il y a plein de gens qui sont pour le Mercosur, mais ils ne le disent pas trop fort. Parce qu'ils ont vu que, au niveau opinion, en fait, c'est un discours qui ne passait pas. Et donc, ils sont pour. Mais ils ne le disent pas. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors l'Humanité est vraiment le journal qui, depuis longtemps déjà, dit son opposition très franchement au Mercosur. Voilà. La capitulation de l'Europe. Sur fond de colère paysanne, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, devrait donc ratifier le traité de libre-échange. Voilà, tout ça, c'est les infos que vous avez. Voilà. Et voilà, l'UMA parle d'un désastre écologique et social. L'Union européenne donc devrait valider le traité au risque de sacrifier des filières agricoles, mais aussi les critères de qualité et de respect de l'environnement. Souvent résumé par l'expression viande contre voiture, parce que, il est dit que cet accord est plus profitable aux industriels qu'aux agriculteurs. Voilà. Il devrait faciliter cet accord l'exportation de produits agricoles sud-américains d'un côté, de biens industriels et de services européens de l'autre. Voilà. Pour résumer, c'est vrai que c'est un petit peu ça, quoi. Première agriculture de l'Union européenne, la France a maintenu jusqu'au dernier moment son opposition au traité, non sans ambiguïté face à la colère des agriculteurs et des partis politiques presque unanimement hostiles, parce que vous avez vu que LR, parti de droite, qui devrait économiquement être plutôt libéral, menace le gouvernement de censure, puisque la France n'a pas réussi à empêcher la ratification à venir du Mercosur. Après avoir laissé la Commission. Donc c'est marrant parce que du coup, LR et l'Humanité sont d'accord. Donc je pourrais même résumer en exagérant un petit peu, Bruno Retailleau et l'Humanité, journal de gauche, journal communiste, sont d'accord. Ce qui n'arrive pas souvent. Voilà. C'est pour ça que le président Macron, dans son dernier communiqué, parle d'un rejet politique unanime. Et quand je vous dis que tout ça, c'est la faute de Trump, et que, hein, toujours, regardez, l'Europe patine depuis 20 ans dans ses négociations sur le Mercosur, mais a été poussée à accélérer par les recompositions en cours sur le plan géopolitique. Si le président états-unien Donald Trump a forcé les 27 à la capitulation sur les droits de douane cet été, privant ainsi l'UE de débouchés, celle-ci espère trouver un nouveau souffle grâce au sous-continent américain et à l'Asie. C'est la faute de Trump, les gars. De toute façon, c'est simple, hein. Maintenant, quand on cherchera un responsable pour quoi que ce soit, pfft, on ira là-dessus, quoi. T'es en train tranquille. plaisante, hein. Donc, l'humanité explique un petit peu le concept, le contexte. Voilà. Et explique, si la France, malgré ses ambiguïtés, a été le fer de lance de l'opposition à ce traité, c'est en raison de l'importance de son secteur agricole. L'UMA rappelle quand même que l'agriculture française, c'est la première agriculture de l'Union européenne. Le plus menacé par les exportations venues d'Amérique latine. Mais elle n'est pas isolée. Italie, Belgique, Pologne, Autriche, Pays-Bas ont également traîné des pieds. Les perdants de cet accord, ça devient intéressant, ce sont les filières agricoles les plus fragiles, écrit l'UMA, qui ne sont pas compétitives sur un plan international, comme le bœuf, la volaille, le sucre. Il va y avoir un accroissement de l'offre qui va tirer le prix vers le bas, explique Maxime Combes, qui est un chercheur. Mais l'accord commercial fera aussi des gagnants, explique l'Humanité, ce qui explique l'enthousiasme de certains pays européens. Il est économiquement assez bénéfique pour l'Europe. Dans le chat ces derniers jours, on me disait, oui, mais Sam, en fait, c'est surtout un accord pour l'Allemagne. Voilà. Économiquement assez bénéfique pour l'Europe. Quand il était au pouvoir au Brésil, Jair Bolsonaro a ouvert des secteurs jusque-là très protégés, l'automobile, l'aéronautique, les services de santé, l'industrie pharmaceutique. Lula est un peu revenu sur cette libéralisation, mais la perspective de ce nouveau marché brésilien, immense marché de 270 millions de consommateurs, continue de faire saliver les industriels européens en quête de débouchés, notamment dans l'automobile et la chimie. Deux secteurs dont l'importance outre-Rhin, voilà les Allemands, expliquent l'enthousiasme de l'Allemagne en faveur de l'accord. Autre avantage pour de nombreux pays européens, l'accès à des matières premières indispensables à la transition énergétique et technologique, comme le lithium, dont l'Amérique latine est le premier producteur mondial. Reste, écrit l'UMA, il est pas mal l'article de l'UMA, hein, reste qu'alimentant la logique libérale, ce nouveau traité de libre-échange devrait surtout renforcer les inégalités internes à chaque secteur. En fait, l'UMA dit pas, je résume, je force exprès, je résume à mort. L'UMA dit pas, l'accord va être négatif pour l'Union européenne d'une façon générale, il serait même plutôt positif pour son économie, mais va provoquer des choses très négatives pour certains secteurs. Ce nouveau traité de libre-échange devrait surtout renforcer les inégalités internes à chaque secteur. En réalité, le nombre d'acteurs économiques qui sont gagnants est limité. Il s'agit surtout des multinationales et très grosses entreprises qui disposent de capacités d'exportation. Parce que oui, ce qui semble logique. Or, on le sait, elles ruissellent très peu. Alors que de l'autre côté, les coûts sociaux seront importants, résume Maxime Combes, qui regrette que l'UE continue de promouvoir l'idée de croissance, passant par une insertion accrue dans les marchés mondiaux, qui pourtant augmente nos dépendances au lieu de se concentrer sur son marché intérieur. Donc on voit qu'il y a une autre logique économique là. Macron a finalement tranché, la France votera non. Bon, ça ne va rien changer à l'histoire, vous l'avez compris. Voilà. S'il réaffirme que la France est favorable au commerce international, alors Maximilien, c'est exactement, je dis exactement la même chose. C'est juste qu'on, j'ai du mal à l'expliquer. Maximilien dit, c'est faux! Salut Maximilien, ça va. Pour la France, ça va être une aubaine. BTP, télécom, services financiers, export de produits agricoles, lait, Danone. Alors les économistes disent qu'on est largement gagnant dans les faits. La France, oui, mais je dis ça. Mais même l'humain le dit. Mais les gros. Maxime. Maximilien, pardon. Les gros, les exportateurs. Mais l'humain dit la même chose. Il dit pas que la France est perdante. Il dit que oui, l'industrie française, oui. Les gros exportateurs agroalimentaires français, oui. Mais c'est pas le problème de l'humain. L'humain, qui est un journal de gauche, qui est un journal communiste, dit, est-ce qu'il n'y a pas. Voilà, il y a Suzanne qui dit, tu m'envoies ravi pour Danone. Est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle de croissance qui soit moins impactant pour les secteurs d'activité qui, eux, ne sont pas exportateurs. Tu vois? Mais je n'ai pas dû être assez clair sur le sujet. Donc Macron, lui, vote contre. Voilà. S'il réaffirme que la France est favorable au commerce international, le chef de l'État estime que l'accord UE-Mercosur est un accord d'un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes. Il est pas mal l'article de l'UMA. D'ailleurs, il estime Macron, quel communiste ce Macron, putain. J'ai toujours dit, moi, quel gaucho. Il dit, le gain économique de l'accord UE-Mercosur sera limité pour la croissance française et européenne. Quel gauchiste. Et de poursuivre, il ne justifie pas d'exposer des filières agricoles sensibles et essentielles à notre souveraineté alimentaire. Bruno Retailleau aussi, hein, pareil, quel gauchiste, hein, qui menace le gouvernement Le Cornu d'une motion de censure parce que le Mercosur va passer, hein. On est d'accord, hein? Oh, c'est fou ça. Hein. Non mais on dit, tout ça c'est du second degré. Parfois, je fais des pas de côté, je plaisante. Hein, je préviens parce qu'après ça part sur les réseaux sociaux. Non, on dit toujours oui, la France se droitise. Regardez le score du RN, tout ça. Désolé, mais moi je là, sur le coup, Macron et Retailleau, mais oui, tu as raison, ce sont des zadistes. Hein. Jekyll, les podcasts, on peut l'écouter sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes, Jekyll. Apple Podcast, Deezer, Spotify, everything, everybody, everywhere, partout. Donc après, il y a la question de l'environnement, et qui est une vraie question, je redeviens un petit peu sérieux, pardon. Pesticides, déforestation, émissions de gaz à effet de serre. Hein. L'accord UE-Mercosur présente des risques élevés pour l'environnement, avec notamment des conséquences majeures en termes de réchauffement climatique. Parce que là, on parle de croissance, on parle de business, mais bon. Hein. En encourageant les secteurs économiques à produire plus, les émissions de gaz à effet de serre vont mécaniquement augmenter. D'autant qu'afin de répondre à la demande croissante de viande bovine, les agriculteurs du Mercosur seront poussés à défricher plus, accentuant la déforestation, notamment en Amazonie. Cet accord commercial incite également à l'utilisation de pesticides. Merci Jekyll. Ironie du calendrier, le gouvernement français a justement signé mercredi un arrêté pour suspendre l'importation de fruits et de légumes qui contiennent 5 pesticides interdits en Europe. Je vous parlais des mangues tout à l'heure. Tentative de diversion selon l'ONG Génération Future. D'autant que ces substances interdites donc, hein, c'est interdit, voilà, pourraient se voir réintroduites sur le marché par le traité Mercosur. Disent les défenseurs de l'environnement. 3 des 5 pesticides concernés, là, qui ont été interdits, là, sont encore produits au sein de l'UE pour l'export. Il reste totalement hypocrite de continuer à produire sur le sol européen ces mêmes substances interdites à des fins d'exportation. Voilà. Donc, en vrai, je trouve que l'article de l'Humanité est assez intéressant. Vous voyez, je trouve que la combinaison des 3 articles qu'on a lus, la Libération, Figaro, l'UMA, bon, c'est un petit peu touffu, hein, c'est un petit peu. Un peu sec, un peu aride, un peu pointu, ça parle beaucoup de chiffres et tout. Je trouve que Global nous donne quand même voilà, comme le dit Sugar, ça se complète bien. Un petit peu comme nous, avec les amis Draco, Noctali, Étienne LB, Madame Guesbert, en 5 stacks sur Valo. Hein. Mais ça, c'est autre chose. Lunex, de gauche ou de droite, Samuel? Les deux, moi, je suis les deux, moi. Alors, si je m'en fie aux réseaux sociaux sur ma personne, je suis tout. Je suis un dangereux gauchiste. Ça, c'est sûr. Je suis aussi un soutien constant et réaffirmé de l'extrême droite française. Notamment parce que j'accepte de discuter avec ses électeurs. Donc je suis d'extrême gauche. Et d'extrême droite. Un peu macroniste aussi. Voilà, je suis tout ça, moi. Voilà, Samuel, ce zadiste qui fait le lit du RN. Ça, c'est moi, ça. Pardon, je suis sur un historique. Excusez-moi, je prends quelques secondes. Dis-donc, et sarcastique, comment tu as réussi à passer entre les mailles du filet, toi, depuis le début, là? Oh, dis-donc, ouais. Pourtant, waouh! On est sur un champion là. Ouh. Oh là là. Il n'y a pas beaucoup de messages, mais. Hein? C'est un book. Hein? C'est 14 juillet quand même, hein? Hein? Non, non, mais. Waouh! Oui, je sais, 3 TO, un avertissement en 44 messages, oui, c'est pas mal, ouais, déjà, ouais. Bon, sarcastique, voilà. Continue de nous divertir. Hein. Toujours un plaisir, comme le dit MMG, ça s'appelle une légende. Qu'est-ce qu'il dit de beau? Ah oh non, on va quand même pas le mettre à l'honneur à ce point. Hein. Non, non, faut pas déconner quand même. Déjà, on tolère. C'est déjà pas mal. Allez. Étrange histoire. Il me reste un peu. Ça va, il me reste un petit peu de temps. J'ai un rendez-vous de taf ce midi. Étrange histoire que celle-ci. Libération d'un Français. Condamné et incarcéré en Russie. Laurent Vinatier, libéré. Des articles ce matin, mais des articles pas très gros, pas très longs, pas très. Il n'y a pas beaucoup d'infos. J'ai l'impression qu'il nous manque des trucs. La libération de Laurent Vinatier, un secret bien gardé. Le chercheur français emprisonné depuis juin 2024 a été libéré et arrivé à Paris hier, jeudi, en échange de la libération du retour à Moscou du basketteur Danil Kazatskine. Donc déjà le... Tu vois, chercheur, Russie, France, basketteur. Oula. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le secret était bien gardé jusqu'à la dernière minute. Vous avez le bonjour de ma grand-mère, Marie-Josée. Ozini, je fais un grand bonjour à ta grand-mère, Marie-Josée. Et moi, c'est un prénom que j'aime beaucoup, Marie-Josée. Voilà. Donc, je vous embrasse tous les deux. Et bon week-end, Marie-Josée. Le secret était bien gardé jusqu'à la dernière minute. Le chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie depuis juin 2024, était déjà sur le sol français lorsque l'annonce de sa libération est tombée jeudi en milieu d'après-midi. Marie-Josée, ça fait être ma première copine. Pardon, je fais une parenthèse. Ma première petite, mon premier bisou d'ado, ça a failli être avec une Marie-Josée. Ouais. Mais finalement, elle m'a mis un gros, comment on dit, un gros vent. Voilà. Tu sais, c'est à l'époque où ça ne doit plus exister, ça. Mais tu sais, c'était encore l'époque où c'était ça passait les petits mots en classe, là, les petits bouts de papier. Et puis c'était les copains ou les copines qui disaient, ouais, il y a machine là, il voudrait peut-être. Est-ce que tu serais d'accord pour aller au cinéma avec elle, tu vois? C'était cette époque-là, tu vois. Quelqu'un dit justement, c'est elle. La grand-mère. Oh, vous êtes con, hein? Et donc, ben la première fois, moi, qu'on m'a proposé par ami interposé d'aller au cinéma avec donc une jeune femme, une jeune fille, parce on était quoi, lycéen, je pense. Ouais, tu es au lycée, je crois. Ou fin de collège, tu vois. Eh ben, c'était une Marie-Josée. Donc, voilà, tu veux sortir avec ma pote, quoi. C'était un peu ça. C'est joli, Marie-Josée. Et du coup, je crois que moi, j'avais plus ou moins répondu oui. Et ben finalement, genre la veille du ciné, et ben la même pote est venue me voir en me disant bah finalement non. Donc c'était pas un lapin. Je sais pas comment on peut appeler ça d'ailleurs. Waouh, putain c'est dur, hein. Coup dur pour le. Ah ben, ça peut dire que. Ouais. Ah ouais, mais j'ai pas oublié, hein. Tu vois, je devais avoir 15 ans, je dirais, tu vois, par là. 15 ans, ouais. 15-16 ans, je sais pas. Ben, j'ai pas oublié, hein. Je me rappelle de tout, de son prénom, de son patronyme. Ouais, le cœur a saigné ce jour-là, ouais. Ouais, ça arrive, les gens, ils ont le droit de changer d'avis, hein. C'était clairement un lapin. Non, non, c'est-à-dire que je suis pas allé au rendez-vous, si tu veux, parce qu'on m'a. Elle s'est décommandée avant, quoi. Tu vois? Ouais. Donc, c'était marrant. Mais j'ai pas oublié, c'était mignon. C'était pas très violent en tant que tel, hein, d'ailleurs. Tu vois? C'était pas. Ouais, c'est que ça devait pas se faire, exactement. Ouais. Voilà. L'accord ne devait pas être signé, comme le Mercosur, quoi. Voilà. Pardon, je reviens à mon histoire de chercheur, là. Mais c'est ce prénom qui m'a rappelé des souvenirs. Alors, donc, je reviens à mon otage, là. Enfin, mon otage. Mon chercheur arrêté, là, en Russie. Donc, le secret était bien gardé jusqu'à la dernière minute. Le chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie depuis juin 2024, était déjà sur le sol français lorsque l'annonce de sa libération est tombée. Jeudi en milieu d'après-midi. Il est sorti des prisons russes plus tôt dans la matinée, selon son avocat. Le scénario d'un échange de prisonniers était privilégié, avec en ligne de mire la date du 7 janvier, jour du Noël orthodoxe, traditionnelle période des grâces présidentielles en Russie. C'est exactement ce qui s'est passé, et pourtant la stupéfaction d'un dénouement si rapide a saisi les proches du chercheur. Les proches du chercheur ont été très surpris par cette libération. Sur le groupe WhatsApp réunissant amis et famille, on s'échange des messages tous les jours, on a été très heureux, très surpris que ça a pu évoluer aussi vite. Voilà. Explique José Pereira, qui est un ami de Laurent depuis leurs études. C'est une surprise totale, dit l'avocat. Le FSB, je crois que c'est les services, c'est pas les services de sécurité russes, ça? Le FSB a diffusé une vidéo dans laquelle on voit Laurent Vinatier écouter un homme lui annonçant qu'il a été gracié par Vladimir Poutine. C'est cette vidéo-là, cette image-là. C'est ça, service secret russe, c'est ça. Hein. Déjà condamné à 3 ans de prison pour ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger, hein, le spécialiste de l'espace post-soviétique, le chercheur, était accusé d'être un espion. C'était anciennement le KGB, c'est ça. Et risquait 20 ans de détention en cas de prison. Le Français sort d'un centre de détention sous la neige, monte à bord d'un petit avion à Moscou. C'est là qu'il a été échangé physiquement contre le basketteur russe. Daniil Katsakin, qu'on voit sortir de l'appareil. Le jeune homme était détenu en France, donc le basketteur russe, depuis juin à la demande de la justice américaine, qui le soupçonne d'être un membre d'un groupe de hackers. Donc les services français ont échangé le français contre le basketteur russe soupçonné par Washington d'être un hacker. Voilà. Peut-être que la France a dit, dis donc à Trump, hein, hein, on commence à nous casser les bonbons, lui. Ils veulent le basketteur russe. Eh ben on va le filer à Moscou. Voilà, bim, qu'est-ce que tu... Hey, hey Trump, qu'est-ce que tu réponds à ça? Hein? Alors, fais-moi le malin, hein. Toi, Trump, il a fait le Venezuela. Nous, on a fait ça. On a rendu le basketteur. C'est un immense soulagement, a déclaré l'avocat. Voilà. À la fois avocat de la famille Vinatier et de Daniil Katsakin. L'avocat, c'était à la fois. Arrête un song. C'était à la fois l'avocat du chercheur français et du basketteur russe.
Cette histoire.
Cette histoire. Ok. Je ne comprends rien. Voilà. Je suis particulièrement heureux que Laurent Vinatier ait été échangé contre un autre de mes clients, a-t-il ajouté. Allez. Ah, c'est marrant. L'histoire est trop. Alors l'histoire telle qu'elle nous est racontée, mais bon, j'aimerais bien tout savoir moi sur cette histoire. Fin décembre, tout s'est accéléré. Lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine répond contre toute attente à la question d'un journaliste de TF1. Attendez, c'est pas fini, hein. Jérôme Garraud sur le sort de Laurent Vinatier. Attends, j'ai mon épouse qui m'appelle. Désolé, faut que notre. Alors, bonne nouvelle, mon rendez-vous pro avec mon amoureuse est décalé, et donc il faut que je change de taxi. Vous embrassez Hélène, vous êtes gentil. Donc, est-ce que je peux modifier l'horaire de ce taxi? Commande en cours, modifier course, horaire, ce n'est plus 11h55, c'est midi 10. Eh bien, je ne peux pas modifier. Eh bien, je vais l'annuler. Ok. Je suis trop près. Supprimer. Ok. Est-ce que je peux en commander un autre maintenant? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué ma vie. Hein. Je pense que non. Je le prendrai en direct. Pardon. Hein, je vous ai mis en pause les gars. Hein. Ok. Donc départ. Ouais. Arrivée. Élysée. Palais de l'Élysée. Ok. Voilà. Ah bah si je peux. Je peux ou pas? Ouais, c'est bon. Faut mettre même. J'ai dit midi 10, les amis. J'ai dit midi 10. C'est ça que vous m'avez entendu dire ou pas? Sugar, c'est ça que j'ai dit? J'ai dit midi 10? Merci. Voilà. Et pas besoin d'assistant personnel, hein. Vous avez le chat, hein. Non, vous êtes merveilleux, hein. Voilà. Voilà, je veux dire. Ok, c'est bon. Curieux qu'il n'a pas de chauffeur privé.
Voilà.
Un chauffeur privé? Mais attends, tu penses que pendant mon stream, il y a une Bentley en bas de l'immeuble qui tourne avec un gars avec une casquette qui m'attend? Prêt à m'emmener à mon jet, je sais pas où là, c'est où l'aéroport des jets à Paris? Pour aller prendre, je sais pas, le thé à Istanbul? Mais les gars, le Bourget. Jamais le Bourget de ma vie. Jamais pris un avion privé de ma vie. Jamais pris autre chose qu'une classe éco en avion. Trop cher. Et puis d'ailleurs, on essaie de prendre un peu moins l'avion parce qu'il faut pas déconner, c'est pas fou en CO2 quoi. Donc non, non, les gars, qu'est-ce que vous imaginez? Ah non, non, mais non, on est non. Bon, non, quand même. T'inquiète, quand tu seras président, ça va changer. J'ai vu que Trump avait son avion avec Trump écrit en gros dessus. Oh, vous imaginez la gueule de l'avion? Sam! Tu faisais quand même partie de la pègre japonaise, Samu. Non, mais ça, faut arrêter avec ça. Faut arrêter, les gars, là. Ah ouais, on pourrait écrire en gros Super Sam. Exactement. Bon, je reviens à mon histoire là. Donc, le président russe est interpellé lors d'une conférence de presse par un journaliste français de TF1, Jérôme Garraud. C'était en décembre. Et le président russe, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit, bah, j'ai jamais entendu parler de cette affaire. Mais que s'il y a la moindre chance de résoudre cette question de manière positive, si la loi russe le permet, bah, on fera tout notre possible. Quatre jours plus tard, le journaliste de TF1 reçoit un coup de fil. Devinez qui c'est? Devinez qui c'est. Qu'est-ce qu'appelle le journaliste de TF1? 4 jours après. Non, c'est pas François Hollande. Non, c'est pas Poutine. C'est Dmitri Peskov, c'est écrit là. Les gars, c'est écrit le porte-parole du Kremlin. Non, c'est pas Jean-Pierre Pernaut. C'est pas la valise RTL. C'est pas Marie-Josée. Vous suivez un petit peu. Voilà. C'est tellement rapide que ça venait de tellement haut que j'ai eu beaucoup d'espoir, raconte le journaliste français de TF1. Voilà. Ces derniers jours, ses sources à Moscou lui confirment la possibilité d'une libération le 7 janvier. Voilà. Et puis finalement, ça s'est fait. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on ne dit pas tout, moi. Ce matin, les articles sont pas très longs, sont pas très complets. Je sais pas. Bon, tant mieux. Bon, je suis très heureux pour Laurent Vinatier et sa famille. Ça, c'est super. Mais l'histoire du journaliste en conférence de presse qui dit « Eh, monsieur Poutine, il y a un Français qui est emprisonné chez vous, il s'appelle Laurent Vinatier. Tu pourrais faire quelque chose? » Et le mec, il dit ah, « ben, je suis pas au courant, mais je vais voir. » Et qui le libère. Je sais pas. Il nous manque des trucs, non? Pensez pas qu'il nous manque des trucs. Puis le basketteur russe, là. Sais pas, j'ai l'impression qu'on nous raconte pas tout, ouais. Ben, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais bon. Si je trouve d'autres infos là-dessus, je n'hésiterai pas. Dernier sujet. Ah, attends, un croquetur, je te lis, mon ami. Qu'est-ce que tu dis ? Bon, je vois rien de spécial. Ok, mais merci en tout cas. Alors, dernier sujet. Le papa de la Sega, enfin l'un des deux papas de la Sega, de l'entreprise Sega, voilà, RIP, parce qu'il est mort. Voilà. C'est un Américain. Et moi, j'apprends que par les deux fondateurs de Sega, l'entreprise, entreprise japonaise, eh bien, ce sont des Américains. Et ça, je ne savais pas. C'est Le Monde qui rend hommage à ce monsieur qui s'appelle David Rosen, cofondateur du fabricant de jeux vidéo Sega. Voilà. David Rosen, l'Américain, qui a fait de Sega un géant du jeu vidéo, est mort le 25 décembre 2025 à Los Angeles, hein, à l'âge de 95 ans. Comme quoi, le jeu vidéo, ça conserve. Hein, les esprits chagrins qui disent « jeu vidéo !» 95 ans. Je pensais que ces gars étaient japonais. L'entreprise est japonaise, mais c'est ça qui est dingue. Les fondateurs, c'est des ricains. Peu connu du grand public et rarement des joueurs, hein, cet homme d'affaires a pourtant profondément marqué l'histoire des jeux vidéo en transformant sa petite entreprise de cabine photographique en une multinationale de jeux vidéo, aujourd'hui indissociable de sa mascotte Sonic. Et vous êtes très nombreux, comme moi, à penser que bah, ce sont des Japonais qui ont créé Sega. Eh ben non. Né à New York, David Rosen est envoyé en Asie lors de son service militaire. L'histoire est incroyable. Entre 1942 et 1952, il séjourne longuement au Japon, occupé par l'armée américaine, tout en voyageant en Corée en pleine guerre, ou à Shanghai en Chine. Démobilisé, il décide de rester au Japon, voilà, et il repère une occasion commerciale. Hein. À cette époque, les Japonais avaient un grand besoin de photos d'identité après la guerre. Hein. Faire des photos pour les inscriptions scolaires, pour les cartes de rationnement de riz, pour les cartes de chemin de fer, pour l'emploi, expliquait-il. Il décide alors d'importer, après la Seconde Guerre mondiale au Japon, des petites cabines photographiques automatiques des États-Unis. Voilà. Donc c'est des photomatons, quoi. Voilà. Avec son entreprise Rosen Enterprises, fondée en 1954, il installe ses cabines, baptisées Photorama, à travers tout le Japon. Il assiste aux premières loges à la rapide évolution de la société japonaise d'après-guerre et comprend, à mesure que le niveau de vie et le temps libre augmentent après la Seconde Guerre mondiale, que le divertissement est un marché porteur. Parce que oui, les Japonais, hein, ils ont besoin de se divertir aussi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il obtient alors une licence du ministère du Commerce japonais pour importer des machines de jeux à pièces, hein, déjà démodées aux États-Unis. Je suis désolé, il faut que j'en boive un coup. Ah, j'en ai plus. Et donc Rosen rachète à bas prix à Chicago des modèles d'occasion de machines électromécaniques genre flipper, cousine du flipper. Notamment des bornes de jeux de tir de cible. Le succès est immédiat au Japon, ça cartonne. L'entrepreneur parcourt l'archipel pour implanter ses salles de jeux à pièces dans de nombreuses villes. J'adore cette histoire. À un moment, il dit, l'importation c'est bien, mais moi je vais produire. Bien joué. En 65, Rosen Enterprises, voilà, fusionne avec Nihon Goraku Busan, qui conçoit quant à lui des jukebox, des jeux automatiques vendus sous la marque Service Games, occasionnellement contracté en Sega. Service Games, Sega. Nom repris par la nouvelle entité, dont David Rosen garde la tête. À la tête de Sega, David Rosen, l'Américain. Dès l'année suivante, Sega lance Periscope, sa première production originale, qui est en fait l'adaptation d'une borne conçue par le concurrent Nakamura Manufacturing Co., futur Namco. Comme son nom le suggère, le joueur s'y trouve aux commandes d'un sous-marin chargé de torpiller les navires ennemis. La qualité des décors et des accessoires, ainsi que les bruits électroniques et autres flashs lumineux assurent à Periscope un succès retentissant. C'est un moment charnière pour l'entreprise qui se fait connaître en dehors du Japon. Est-ce qu'on n'aurait pas des images de ce jeu Periscope sous-marin, là? Ça pourrait être marrant, ça. Jeu Periscope. C'est un vieux truc, ça. Image. Ouais, ça, ouais. trouve pas trop de trucs là comme ça, c'est des vieux trucs. Attends, je vais taper David Rosen peut-être. Ou Sega. Oh si, putain, j'ai trouvé! Oh, c'est une dinguerie! Putain! C'est ce truc-là! La machine, là! La machine à pièces, quoi! C'est ouf! Oh, c'est top! Incroyable! La voyez, là? Et les gens qui jouent, là? Tu vois, parfois, ils pouvaient en avoir plusieurs. C'est génial. Oh, c'est super. Incroyable. Incroyable. Oh, c'est génial. Donc voilà. Donc il lance ce jeu, hein, ce machine à la pièce là. Voilà. C'est un moment charnière pour l'entreprise, donc c'est un carton. Qui se fait connaître en dehors du Japon, signe de l'aura mondiale de Sega dans le secteur du divertissement, sa borne d'arcade électromécanique Killer Shark. J'ai joué à ça, moi. Oh! J'ai joué à ça, moi. Dans ma jeunesse. Même époque que Marie-Josée. J'ai joué à ça. C'est cette borne-là. J'ai joué à ça, moi. Je pense qu'après avoir appris quand j'ai appris que Marie-Josée voulait pas aller au cinéma avec moi, je crois que je suis allé me changer les idées sur Killer Shark. Dans les salles d'arcade, parce que j'allais dans les salles d'arcade, moi. Je mettais des pièces de 1 franc. Des pièces de 1 franc. Voilà. Ou des pièces de 2 francs, après c'est passé à 2 francs. Et tu mettais 5 francs, t'avais 3 parties. C'est les pièces de 5 francs. Je me rappelle de ça. Là, je blague pas, hein, j'ai connu ça, moi. Et donc, signe de l'aura mondiale de Sega dans le secteur du divertissement, sa borne d'arcade électromécanique Killer Shark se trouve sous les projecteurs après une apparition dans le film Les Dents de la Mer en 75 de Steven Spielberg. C'est fou, ça. Cependant, le marché évolue très vite. Tu vois, on est dans les années 70. Donc, moi, fin, tu vois, fin des années 70, moi, fin des années 70, j'ai 9 ans. Tu vois, ouais, ça correspond, hein. Cependant, le marché évolue très vite. Voilà. Pas question de se reposer sur les acquis si on veut survivre. Dès 72, les Américains d'Atari, la première console, ont troqué la mécanique pour l'électronique et Pong, hein, avec son écran capable d'afficher des raquettes de pixels, a donné le coup d'envoi du jeu vidéo commercial. J'ai joué à Pong, qui est considéré comme l'un des premiers jeux. C'est pas le premier jeu, mais l'un des premiers jeux de l'histoire du jeu vidéo. J'ai joué à Pong. J'étais très fort. Sega s'engouffre rapidement sur ce marché prometteur avec son premier jeu vidéo, Pong Tron. Sorti en 73, Sega se transforme alors en pilier de la balbutiante industrie du jeu vidéo. Merci Airfoxis, merci Darko, merci Soltix, merci Paf, merci Grande Madame, merci Métière, merci. J'ai remercié aucun sub. Elle ne rate pas non plus l'essor des consoles qui permettent de retrouver dans son salon l'expérience des bornes d'arcade. Parce que ici, les plus vieux comme moi, ils ont connu. C'est pas le premier Pong, c'est considéré comme le premier, mais en fait, c'est l'un des premiers jeux vidéo, te diront les puristes. Pong. Donc, il y avait les bornes d'arcade, et après, la révolution, ça a été de trouver les jeux, pas tout à fait les mêmes d'ailleurs, parce qu'ils étaient mieux sur bornes d'arcade, mais les jeux à la maison sur les consoles. Ça a été ça la révolution des consoles. Mais le jeu vidéo, on jouait en salle d'arcade avant, on mettait des pièces. Voilà. David Rosen, l'Américain, n'a ensuite eu de cesse d'assurer la croissance de Sega tout en veillant à ne pas en perdre le contrôle. Dès la fin des années 60, il envisage une introduction en bourse, mais rechigne à le faire sur le marché japonais. Il s'appuie alors sur un partenaire américain, Gulf and Western Industries, qui fait passer Sega sous pavillon américain en 69. Alors, c'est incroyable. David Rosen reste aux commandes jusqu'en 83, lorsque la société est cédée en 83 au groupe japonais CSK, après le crash du secteur de jeux vidéo. Donc, Sega fondé par des Américains, Sega qui a été parfois japonais, et puis 83 vendu aux Japonais. Voilà. David Rosen confie alors la direction d'entreprise à Hayao Nakayama. Il se dirigera, il se contentera de diriger Sega of America, tout en demeurant au conseil d'administration d'entreprise jusqu'en 96. Et ce monsieur, David Rosen, sans lequel, c'est pas lui, c'est pas le monsieur en haut, hein. D'ailleurs, on va essayer de trouver une photo de David Rosen. Ça, c'est un cinéaste hongrois qui est mort aussi, Bellatar. On va essayer de trouver une photo. Eh bien, sans ce monsieur, le visage du jeu vidéo ne serait pas tout à fait le même aujourd'hui. Voilà. David Rosen. David Rosen. Est-ce qu'on a une photo libre là? C'est bien. À quoi ressemblait David Rosen? C'est lui, c'est le monsieur là. Voilà, c'est lui. Merci monsieur David Rosen. C'est lui. Ah ben, ah, sur le site du Monde, il y a le même article, mais plus long. Un peu plus long. Avec un autre. Avec un autre titre, marrant. Et une photo. C'est drôle, hein. On le voit là. Ah, mais j'ai joué à tout ça, moi. C'est marrant. Oui, parce que oui, sur Internet, souvent vous avez parfois des articles plus longs parce que sur Internet, eh bien, il n'y a pas la, t'as pas respecté en fait le nombre de la taille que ne peut pas dépasser l'article par rapport au nombre de pages d'un quotidien, etc. Donc parfois vous avez des articles qui sont pas d'ailleurs dans la version PDF ou papier, qui sont sur Internet, qui n'ont pas trouvé leur place dans la version PDF papier que vous avez trouvé dans les kiosques ou en téléchargement. Mais que vous allez avoir sur le site internet, et parfois vous avez des articles plus longs aussi. Voilà les amis pour la revue de presse. Alors, pas mal non, hein. Malgré une nuit bien compliquée à cause du vent. Les amis, je vous rappelle que jeudi prochain, dans les gros streams à venir, on sera en direct de Média en scène avec une édition spéciale de MVP sur les métiers des médias, les métiers du journalisme, avec plein d'invités. Voilà, ça va être super sympa. Donc un MVP exceptionnellement, pas le mercredi, mais le jeudi prochain après-midi, 14h. Et on va beaucoup parler de médias, puisque le lendemain, je serai en OP avec le Figaro. Hashtag collaboration commerciale. Où est-ce qu'il est? Hop, ici. En collab avec le Figaro, qui fête ses 200 ans. Il y a une expo en ce moment, enfin non, qui va commencer dans quelques jours, là, sur 3 jours au Grand Palais. Sur les 200 ans du Figaro, ça a l'air pas mal du tout. Et moi, je fais un truc avec le Figaro, avec 8 journalistes du Figaro, vendredi prochain, à 14h, avec un stream IRL dans l'expo, avec 8 invités. Voilà. Et à cette occasion, le Figaro vous propose un abonnement de fou. Voilà. Ça vous fait un quotidien vraiment à pas cher. Je trouve la propale assez folle. Point d'exclamation Figaro. Bim. C'est ici. Vous l'avez tout en haut. Je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous la remonte vite fait. Je ne sais pas où je l'ai mise. Bon, je reclique dessus. Théma. Un journal, on allait voir tout à l'heure. Un journal aujourd'hui, ça coûte 4 euros à peu près. Voilà. Quand vous l'achetez en kiosque. Là, pour 2 euros par mois, pendant 2 semaines si vous le souhaitez, c'est-à-dire 47 mois, vous interrompez l'abonnement quand vous voulez, et ben c'est 2 euros pour... Il y a 6 Figaro par semaine, donc à la louche 24-25 Figaro. Voilà. Alors après, ligne éditoriale, le Figaro, vous la connaissez, hein. C'est peut-être pas forcément le journal que vous lisez, et si ça l'est, bah tant mieux. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de lire plutôt plusieurs journaux. Mais en tout cas, pour 2 euros par mois, voilà, vous avez cette propale. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, les amateurs de presse, voilà. Le mieux, c'est d'en avoir même plusieurs, quoi. Comme le Michougar qui est déjà abonné au Parisien et à Ouest France. Voilà. Merci les amis, des bisous. Qui on raid? Putain, j'en ai des fenêtres ouvertes là. Et Libé, t'es aussi abonné à Libé, Sugar? Et tu vas prendre le Figaro du coup ou pas? Bah non, c'est pas possible, tu vas pas lire tous les jours le Parisien, Libé, Figaro, Ouest France. C'est un peu. Quand est-ce que tu vas jouer à Valo? Il est fou. Alors, qui est en live? Il y a du monde. Ouais. Il y a du monde, il y a du monde. Ça, c'est quoi ça? Je connais ça. Sur quoi c'est? C'est drôle. Attendez. J'ai déjà raid cette streameuse, mais là je suis sur le descriptif de sa chaîne. Les amis, le descriptif de la chaîne de cette streameuse, c'est clairement la chaîne du no content. À cheval entre le cabinet miteux du psy et le PMU du coin. Ce qui se fait de mieux ici, mais de pire sur Twitch. Les amis, est-ce qu'on n'a pas envie de découvrir cette chaîne? Merci Jekyll, tu régales. Est-ce qu'on non, on a envie? On a envie. Ok, c'est parti. La chaîne s'appelle Enaolf. E-N-A. Olf, c'est une streameuse. Et j'adore cette description. Let's go. Voilà. Je pense que je déjà raid parce que je la suis, je la follow. C'est parti, ça charge. Bonne journée les chouchous. Merci beaucoup, c'était un plaisir. On se retrouve peut-être ce soir pour du gaming, mais tard parce que famille, ça va dépendre de la forme. Sinon, demain après-midi pour la revue de presse des bonnes nouvelles. Nouveau rendez-vous tous les samedis. La revue de presse des bonnes nouvelles. Si j'en trouve. Voilà, histoire de surmonter un petit peu le moral. N'oubliez pas, tout ça c'est en replay sur Twitch si vous abonnez, sur YouTube à J+1 et en podcast audio tous les jours la revue de presse, la matinée Étienne, à partir de 15-16h, postée par l'ami Vincent. Des poutous, on va voir Enaolf. Ciao ciao, merci encore.
Et voir.